Voilà. Donc cette première séance de séminaire de master, elle va se distribuer sur 6 séances de 2 heures. Donc aujourd'hui, le 28 janvier, et ensuite durant les 4 semaines de février, donc le 4, le 11, le 18 et le 25. Donc ça occupe la première moitié du semestre, donc comme le séminaire d'ailleurs du semestre 1, ce qui vous laissera le temps ensuite de faire un travail, plus approfondi pour la validation de ce séminaire. Alors concernant les, je me permets juste de faire une petite parenthèse concernant les travaux du premier semestre. Donc vous allez bientôt les recevoir. Je suis désolée, j'ai un peu de retard dans les corrections. Donc vous allez bientôt les recevoir avec votre note et une annotation générale qui figurera sur la première page de votre travail et que je vous renverrai en le scannant. Donc soit pour l'un, soit pour l'autre des deux séminaires, soit pour les deux séminaires. Donc je vous enverrai un mail personnel avec ces deux retours, donc les deux premières pages finalement de vos travaux, avec une annotation générale. Normalement d'ici la fin de la semaine vous devriez avoir tout. Et je remercie aussi déjà toutes celles et ceux parmi vous qui m'ont envoyé leur état d'avancement de votre mémoire pour celles et ceux que je dirige en master. Donc j'invite celles et ceux qui ne l'ont pas encore fait à ne pas trop tarder, comme je le disais mardi, dans la mesure où on a, vous savez, un jury qui est le 1er février, donc il faut que, entre-temps, moi je puisse corriger, et pas seulement moi, mais la secrétaire du master, Madame Ludivine à présent, a besoin de temps pour rentrer toutes les notes, donc idéalement, il faudrait vraiment que j'ai tout reçu ce week-end. Faites au mieux en tout cas, hein, on va dire. Voilà, et puis dernière information technique aussi concernant les stages à la clinique de Rouvray qu'on avait déjà évoqué au premier semestre. Donc Lauriane, vous m'avez redemandé, vous avez tout à fait raison. En fait, je n'ai pas pour l'instant d'informations. J'ai relancé Émilie Bourgeois, qui est la collègue avec qui je suis en relation à la clinique du Rouvray. Elle devait me recontacter en janvier pour finaliser cela, après échange avec son équipe. Donc pour l'instant, je n'ai pas d'informations. A priori, il n'y a pas de raison que ça ne se fasse pas. Bien sûr, on est un peu suspendu aux conditions sanitaires et aux possibilités même qui seront offertes de faire des stages en présentiel. De toute manière, on peut imaginer que ça aura lieu plutôt vers la fin du semestre. On va se laisser de la marge de ce point de vue-là. Donc, vous étiez quand même un groupe assez important finalement à être intéressé. Je crois que j'avais noté 6 ou 7 personnes, 6 ou 7 étudiants. Et donc, ça se ferait en deux temps, vraisemblablement, deux petits groupes. Et ce sera plutôt en mai-juin. Enfin, c'est une hypothèse que je fais. De toute façon, j'aurai des informations. Donc, dans le pire des cas, si vraiment ce stage ne pouvait pas avoir lieu pour des raisons indépendantes de nous, évidemment, on trouverait une solution de backup, enfin de repli, en vous proposant de faire un stage au laboratoire de l'ERIAC, au laboratoire de recherche. Ça, c'est toujours possible et ça pose aucun problème. Hein. Donc, il y aura toujours des choses à vous proposer et à faire dans un cadre plus de recherche interne à l'université. Mais pour l'instant, bon, restez sur cette piste-là. À mon avis, il n'y a pas de raison que ça ne puisse pas se faire. Mais je tiendrai au courant, de toute façon. Voilà, et puis enfin, dernière information, et après on en vient à notre propre travail de séminaire d'aujourd'hui. Donc je vous avais tous reçu, je pense, un mail vous donnant l'information de la journée d'études qui a lieu donc, sur le thème de Eros, émotion, sentiment, émotion, cet après-midi. Hein, donc ça fait un peu beaucoup là pour aujourd'hui, mais normalement vous n'avez pas dans mon... l'esprit, en tout cas dans le planning que j'ai, n'avait pas de séminaire cet après-midi. Et donc, si vous êtes intéressé, vous êtes bien sûr invité. Il n'y a pas d'inscription à faire au préalable. Ah oui, en MEF, vous avez un cours. Alors, ça dépend peut-être à quelle heure c'est. La journée a lieu de... Enfin, la demi-journée, en réalité, a lieu de 14h à 17h30. Oui, bon, ça va être compliqué alors pour ceux parmi vous et ceux et celles qui sont en MEF. C'est difficile de tout cadrer, hein. Je suis désolée, je ne savais pas si le MEF avait déjà repris d'ailleurs, comme nous on est encore en flottement là, de reprise de cours. Bon, cette journée elle a été plusieurs fois reportée, différée. Voilà, finalement elle a lieu. Donc voilà, si vous avez une marge de manœuvre, vous êtes évidemment bienvenue. Et elle sera aussi enregistrée par ailleurs. Donc voilà, pour ceux qui sont malheureusement pas disponibles, vous pourrez vous rabattre sur un enregistrement. C'est déjà ça, hein. C'est aussi finalement dans notre malheur de faire tous nos cours et nos conférences en visio. On dispose de possibilités techniques qu'on aménage en fait et qui nous permettent de garder une trace des événements. Et au niveau des cours, de vous permettre de les réécouter ou de les écouter. Donc, c'est un bien pour un mal, on va dire. Voilà, alors, donc, ce séminaire, donc, comme je vous disais, donc, 6 séances aux premières moitiés du semestre. Je vous indique aussi, dès à présent, une date importante par rapport au thème que nous allons ouvrir pour ce semestre. Et que j'en profite d'ailleurs pour annoncer aussi à Umut et Erinch, parce qu'en fait j'en ai pas eu l'occasion d'en parler avant. On se recontactera par mail pour ça aussi, à Umut et Erinch. Mais donc j'ai eu une date possible pour une séance du séminaire de recherche qui va se dérouler en parallèle de ce séminaire de master, qui a déjà commencé en fait ce séminaire de recherche le 11 janvier avec une première séance. Où justement Umut et Erinch ont pris la parole pour revenir sur le travail présenté en novembre, fin novembre, début décembre, dans le cadre de l'ouverture de cette chaire d'excellence. Donc on va avoir une deuxième séance de ce séminaire de recherche, donc qui court parallèlement à notre séminaire de master. Donc évidemment ce n'est pas une séance obligatoire pour vous qui êtes en master, mais ça peut être là en l'occurrence très intéressant. Donc ça aura lieu le 24 février, donc finalement quasiment pour vous en fin de votre cycle de cours de master. Donc c'est un mercredi, le 24 février, et à l'heure française, ça aura lieu de 11h à 13h30. Donc c'est un horaire un peu contraint pour tout le monde, parce qu'en réalité ça correspond à la première séance du séminaire d'informatique de Francis Rousseau, donc le vice-recteur de l'université de Galatasaray, qui est par ailleurs à l'initiative de cette chaire d'excellence et qui a proposé ma candidature, donc qui est lui spécialiste d'intelligence artificielle, et donc c'est aussi dans le cadre de cette collaboration que tout ce travail a lieu. Et donc lui organise sa première séance de master d'informatique à l'université de Galatasaray le 24 février, donc il a un certain nombre d'étudiants de son côté. Et en fait, lors de cette séance du 24 février, il a invité donc un collègue qui est basé en France, mais qui prendra la parole en visio, et qui est donc spécialiste aussi d'intelligence artificielle, qui s'appelle Anastase Karantonis, et qui proposera une séance de mise en pratique en fait du machine learning ou du deep learning. Une séance donc, qui sera une séance très interactive et d'intercompréhension, on pourrait dire, et qui nous permettra, je dis nous parce que moi aussi finalement, qui permettra à tout le monde de se familiariser de l'intérieur, hein, comme on dit, from within, donc vraiment de comprendre mieux la pratique et la technique et l'intérêt finalement de l'apprentissage profond. Donc ça c'est quelque chose qu'évidemment je ne suis absolument pas en mesure de faire moi-même, comme vous l'imaginez, et donc je pense que ce sera très intéressant de pouvoir bénéficier de ce regard, de cette pratique, et ce sera aussi une séance de discussion. Donc ça intervient en fin de votre parcours de master, mais ce n'est pas très grave dans la mesure où entre-temps on va avoir toute une série de mise en place et de préalables théoriques et historiques qui vont donc construire notre propos. Et donc je trouve que c'est pas mal que ça puisse intervenir à ce moment-là. Voilà, donc évidemment, Umut et Erinch, je vous renverrai un mail pour repréciser tout ça, mais voilà, j'ai eu l'information relativement tardivement, donc on a un peu sauté sur l'occasion de pouvoir finalement construire une séance commune. Je pense qu'il peut vraiment intéresser tout le monde. Voilà, donc ça c'est la dernière information un peu pratique que je voulais vous donner. Voilà, je vous ai déjà donné toutes les informations concernant le cadrage de ce séminaire de master. Donc, vous avez compris qu'il y a ces séquences de séminaires de master, d'une part, en parallèle, un certain nombre de séances de séminaires de recherche, donc sensiblement plus approfondies, mais qui sont ouvertes aux masterants, bien sûr, hein, et qui permettent d'alimenter la recherche, le programme de recherche donc sur ce thème de la phénoménologie de l'apprentissage profond. Et puis, il y aura aussi un certain nombre de conférences plus larges, grand public, disons, qui correspondent au format finalement de la conférence que j'ai donnée le 30 novembre. Donc, il y en aura aussi quelques-unes qui vont s'égrener progressivement durant tout le semestre et jusqu'à la fin de l'année universitaire. Donc, on a un programme un peu en trois dimensions, si vous voulez. Et tout vous est ouvert, évidemment. La seule chose qui est obligatoire pour vous, ce sont ces 6 séances de séminaire de master. Mais voilà, si vous êtes intéressé, de façon à approfondir, à compléter, vous êtes bienvenue, sachant que c'est un programme de recherche qui va se poursuivre ensuite. Hein, là, on a un format d'un semestre pour des raisons d'économie, mais en fait, ça va se poursuivre ensuite l'année prochaine. Et évidemment, c'est un programme qui est amené à se déployer, je dirais, aussi dans le cadre de doctorat. Donc, voilà, ça peut être l'occasion, si vous êtes vraiment intéressé par ce type d'interface, il y aura sans doute des opportunités de poursuite de ce travail sur un plan de recherche de thèse aussi. Voilà, il y a aussi voilà, un projet d'université d'automne qui est programmé ou qui est déjà un peu prévu à l'automne prochain, à la Toussaint. Évidemment, là aussi, je vais vous donner plus d'informations de façon à ce que vous puissiez, si vous êtes intéressé, vous y inscrire. Enfin, pour l'instant, c'est encore une esquisse, c'est pas encore construit. Voilà. Alors, ensuite, voilà les informations. Donc, pour cette première séance d'aujourd'hui, donc on va procéder en plusieurs temps. Je regarde l'heure, oui. Je vais donc dans un premier temps. Oui, je vais donc. Je remercie Benjamin Arnaud, qui est donc là avec nous, donc à qui j'ai proposé un peu au pied levé de prendre la parole pour commencer. De façon, donc j'espère que vous êtes toujours d'accord. Enfin, on en avait parlé il n'y a pas si longtemps que ça, mais je ne l'ai pas reconfirmé hier, donc juste pour être sûr que ça vous convient. Parfait, merci Benjamin. Donc bon, désolée de vous avoir prévenu un peu tard, mais bon, voilà, j'ai reçu aussi votre propre travail de mémoire à ce moment-là, donc c'est ça qui m'a donné l'idée, tout simplement. Donc pour démarrer, dans la mesure où on a eu un démarrage en plusieurs temps finalement de ce travail de recherche, et pour que tout le monde soit un peu au même niveau et un peu le même niveau d'information pour démarrer, j'ai proposé à Benjamin de commencer en nous faisant une sorte de petit retour, de petite synthèse ou de petite représentation du propos que j'ai tenu le 30 novembre dans la conférence. Donc que j'ai proposé, qui a ouvert cette chaire d'excellence. Alors cette conférence, évidemment, vous l'avez, c'était ma proposition, hein, vous l'avez peut-être déjà écoutée ou lue. Vous avez peut-être déjà été présent pour quelques-uns d'entre vous au retour qu'en ont fait déjà Umut et Rinch le 11 janvier. Mais évidemment, comme ce n'est pas le cas de tout le monde, et comme je ne peux pas savoir, je ne peux pas vérifier finalement qui a déjà entendu quoi ou qui a déjà lu quoi, il me semble que pour repartir sur de bonnes bases et pour être vraiment tous à peu près à niveau, et puis ça vaut toujours la peine finalement de se rafraîchir la mémoire, d'avoir un nouveau regard porté sur un travail, et aussi de pouvoir en parler pour poser quelques questions. Hein. Voilà, Benjamin, pour toutes ces raisons, a bien voulu. Donc, faire un petit travail de lecture un peu plus précis, disons, de ce texte et de cet audio, et nous le présenter, tout simplement, alors sur un mode relativement synthétique, hein, il ne s'agit pas d'occuper trop de temps dans la séance, mais en tout cas nous donner les grandes lignes, en fait, du propos que j'ai tenu, que vous avez donc peut-être déjà lu ou écouté. Et si ce n'est pas le cas, vraiment, je vous invite à le faire, même après, dans la mesure où ce document et cet audio est disponible sur le site de l'ERIAC. Donc, c'est au même endroit que là où je vais mettre les cours de master. Donc là, vous avez de la documentation déjà. Et je vous invite vraiment à les lire et écouter après, même après la présentation de Benjamin. Donc on va commencer avec vous, Benjamin. Et puis ensuite, donc j'indique juste le déroulé de la séance pour que vous sachiez un petit peu ce qu'on va faire après. Donc ensuite, on prendra un petit temps d'échange et de questions pour ceux et celles qui le souhaitent, ou de retour sur votre présentation. Ensuite, je me permettrai de prendre un petit moment pour compléter en fait à partir de là et redonner un certain nombre d'éléments plus généraux donc de cette thématique en prenant appui sur des documents d'ailleurs que vous avez déjà mais en les resynthétisant et puis ça nous permettra à partir de là donc je vous indiquerai un certain nombre de champs et de thématiques ou d'auteurs que vous pourriez explorer de votre côté sur cette base-là. Donc on fera un premier cadrage. On fera un premier cadrage qui permettra du coup d'organiser et d'orienter un peu votre propre travail de contrôle de validation. Donc, comme on l'a fait au premier semestre sur le thème de la schizophrénie, vous aurez déjà une sorte de programme dans lequel vous pouvez vous orienter. Je vous demanderai d'ores et déjà de réfléchir et de me faire des propositions assez rapidement sur ce que vous voulez faire comme genre de mémoire, de mini-mémoire. Ou pour vous qui êtes en MEF et qui préférez faire une explication, évidemment, je vous proposerai moi-même, là, la semaine prochaine, plutôt, des explications. Mais je voudrais que vous puissiez vous définir déjà sur ce que vous souhaitez faire. Et donc, pour cela, je vais vous donner un cadre assez précis qui sera articulé, évidemment, aux différents thèmes et auteurs qu'on va explorer aussi de façon plus esquissée, évidemment, dans ces différentes séances de séminaire. Et puis, dans un dernier temps, donc tout cela va être assez segmenté, dans un dernier temps de la séance, je redonnerai la parole à Benjamin qui nous présentera, en fait, un point, enfin, ou en tout cas, les premières pistes de son mémoire de Master 2, ce qu'il a déjà, en tout cas, mis en place, et qui est évidemment directement intéressant, et c'est la raison pour laquelle je vous ai proposé, Benjamin, c'est puisque ça concerne la perspective, la pensée, la conception scientifique et philosophique de Francisco Varela dans son lien à la phénoménologie. Donc comme c'est un auteur qui va être assez central aussi dans le travail, du moins théorique ou pratique qu'on va faire, historique aussi, ça me semblait intéressant d'avoir... déjà un point de repère à travers le travail de recherche que mène Benjamin lui-même de son côté, indépendamment de ce séminaire. Donc voilà un petit peu la mise en place pour l'instant de cette séance, et puis donc de l'ensemble de ce qu'on va faire de manière encore assez générale. Est-ce que vous avez des questions avant que Benjamin démarre? Est-ce qu'il y a des points sur lesquels... vous avez des... Bon, n'hésitez pas à m'écrire sur le chat s'il y a quoi que ce soit. Benjamin, je vous donne la parole. Voilà.
Vous m'entendez bien.
Moi, je vous entends bien. Je vais couper mon micro de toute façon. Est-ce que tout le monde entend Benjamin?
Est-ce que vous m'entendez? Magnifique.
Super. Donc je vous donne la parole. Pour combien de temps à peu près vous pensez avoir besoin de...
C'est comme vous voulez en fait. Pour ce qui est du résumé de la séance, je pense pouvoir faire ça assez vite parce que j'ai pas fait non plus une étude suivie. Hein. J'ai pas du tout eu le temps de faire ça, donc c'est vraiment un résumé.
Bien sûr.
Peut-être en 10 minutes, ça peut être réglé.
D'accord.
Et puis, mais si vous voulez que j'allonge, je peux allonger un peu.
Vous pouvez prendre un quart d'heure. Vous pouvez prendre un quart d'heure, c'est correct.
D'accord,
si vous voulez.
Ok, et puis bon, après on verra pour Varela.
Voilà, et pour Varela, dites-moi, parce que j'organiserai aussi les différents temps en fonction pour vous laisser du temps à la fin.
Voilà, pour Varela, moi je peux en parler pendant 1 heure, hein, donc c'est vraiment comme vous voulez.
D'accord.
J'ai préparé quoi faire au moins 20 minutes.
Ok, bah on va se...
C'est vous qui me dites.
Voilà, je vais caler ça sur maximum une demi-heure, en fait. Donc j'essaierai à 12 heures d'avoir terminé les différents points. Et puis si j'ai pas fini, je décalerai ce que je dois faire... Enfin, ce que je, voilà, je le décalerai à la semaine prochaine si j'arrive pas au bout de ce que je voulais vous proposer pour aujourd'hui. Comme ça, vous aurez vraiment la demi-heure. Disons, vous aurez une demi-heure et vous aurez, on va dire, 20 minutes pour laisser un petit peu de temps à des questions, si c'est possible pour vous. C'est un peu court, mais bon, si ça vous va.
Ça me va très bien.
Ok, très bien. Bon, bah écoutez, merci. Donc, je vous laisse la parole. Je ferme mon micro pour l'instant. Hein?
D'accord.
Ok,
bon,
merci.
bah, bon, bonjour, bonjour à tous, hein. Je voulais juste faire une précision en amorce. C'est que il n'y a pas vraiment de raison particulière à ce que je prenne la parole. Je ne suis pas du tout un spécialiste de l'apprentissage profond, de l'intelligence artificielle ou de tout ça. La seule raison qui justifie que vous m'écoutiez quelques minutes, c'est le fait que mon mémoire porte effectivement sur la relation entre Varela, Francisco Varela, donc ce neurobiologiste chilien, et puis Husserl, et plus généralement toute la tradition de la phénoménologie. Voilà, donc je suis un peu comme tout le monde, hein, je suis aussi en train de découvrir le sujet, et clairement dans la position du débutant. Alors, comme Madame Desprats vient de l'indiquer, elle m'a demandé de voilà, faire un rapide résumé pour qu'on soit un peu tous au même niveau sur le début du séminaire, donc un rapide résumé de sa conférence inaugurale à la chaire de philosophie de l'université de Galatasaray. Je m'y suis prêté, je suis pas sûr d'avoir compris toute la consigne, donc vous verrez sur la, bon voilà, je le dirai à la fin que sur les enjeux, je pense qu'il y aurait beaucoup plus de choses à dire que ce que je pourrais en dire moi. Alors, en résumé, cette conférence de Madame Desprats était organisée avec un premier temps, qui reposait sur la mise en évidence, en fait, de deux paradoxes qui sont liés à, l'apparition de ce nouveau domaine qu'on appelle intelligence artificielle et qui se décline de façon plus récente voilà, par la pratique de l'apprentissage profond, du deep learning. Donc ces deux paradoxes, pour le dire très simplement, c'était d'abord que bah, on a affaire à un domaine, à une technologie, puisque c'est un domaine théorique, mais c'est beaucoup, comme on sait tous, un domaine appliqué. Donc on a affaire à une technologie qui repose sur des algorithmes complexes, et dont, à vrai dire, on ne sait pas, nous, utilisateurs, comment ça marche. Donc le premier paradoxe, c'est cet immense écart qu'il y a entre la complexité théorique qui supporte en fait ces technologies, et puis, bah, pour le dire simplement, l'ignorance dans laquelle la plupart d'entre nous, on est de comment ça fonctionne vraiment. Et cet écart, ce qui est paradoxal, c'est que cet écart, il nous amène à avoir une relation qui est de l'ordre de la croyance, en fait. On croit savoir comment ça marche, alors que c'est des outils qui sont construits sur un savoir extrêmement, extrêmement technique, extrêmement fin. Complexe, en fait, le terme, c'est complexe. Voilà, donc c'est ça le premier paradoxe qui a été soulevé par Madame Desprats. Et le deuxième paradoxe, c'est que c'est aussi des technologies qui sont extrêmement prometteuses, qui se présentent comme ayant un potentiel immense d'application justement dans plein de comment dire de domaines de notre vie quotidienne, quoi. Donc on a derrière ce domaine de l'apprentissage profond, on a cette idée d'un grand champ de possibilités, en fait, et qui est contredit dans les faits par des applications qui ont tendance à se concentrer beaucoup sur le contrôle des populations. Alors, bon, l'exemple vraiment typique, c'est la reconnaissance faciale, puisque, bon, voilà, effectivement, c'est une prouesse théorique et pratique d'arriver à reconnaître des visages humains et à les associer à des identités civiles. Mais en même temps, on est tous un peu au courant, un peu sensibilisés aux dérives que peuvent avoir ce genre de technologie. Donc voilà, c'était les deux paradoxes que vous, Madame Desprats, vous aviez évoqués à l'entrée de la conférence. Et puis, ça servait, ces deux paradoxes, ils servaient à introduire la problématisation, justement, de la relation entre, disons, le monde humain, d'accord, notre vie quotidienne telle qu'on la vit tous, de l'intérieur et puis justement ce domaine de l'intelligence artificielle. Donc on est vraiment voilà sur sur des problèmes qui sont liés à l'articulation entre ces deux domaines, notre intelligence à nous naturelle si je puis dire et puis cette intelligence artificielle qui est censée nous imiter. Voilà, alors dans les problèmes qui ont été soulevés bon, il y en a. Bon, je suis pas sûr d'avoir fait le travail aussi précisément qu'il aurait fallu, mais je vais dérouler comme j'avais, j'avais envisagé. Donc la problématisation, elle s'est faite d'abord avec un rappel historique. Les sciences, donc l'intelligence artificielle, c'est un sous-domaine de ce qu'on appelle les sciences cognitives, qui sont un ensemble de disciplines scientifiques qui cherchent à comprendre comment fonctionne l'esprit, comment fonctionne le cerveau. Donc, le point de départ de la problématisation, c'est l'histoire de ces sciences cognitives qui ont reposé sur deux théories. D'abord, une première théorie que Madame Desprats a qualifiée de cognitivisme orthodoxe. Donc, pour le faire très très simple, c'était l'idée que le cerveau, la cognition humaine, fonctionne comme un ordinateur. Voilà, et puis après, il est venu dans les... Donc ça, c'est dans les années 50, 60, 70, c'est dominant pendant toute cette première période. Puis après, à partir des années 80, 90, il y a une autre théorie qui vient, on va dire, affiner cette première théorie qu'on appelle le connexionnisme, et qui, là, on va dire, raffine un petit peu ce qu'on entend par « opération de l'esprit », puisque on avait une vision, voilà, comme la vision du cognitivisme historique, c'était vraiment, ça fonctionne comme un ordinateur, c'est vraiment un traitement de l'information. Là, on est avec le connexionnisme sur une position plus complexe qui fait appel à la notion d'émergence de propriété globale. Mais bon, on y reviendra peut-être à la fin de la séance. Ce qu'il faut retenir, c'est que dans les deux théories, on a un même schéma qui se dégage, c'est-à-dire qu'on considère la cognition, la cognition, pardon, comme consistant en une entrée, une information, des impressions, des stimuli qui rentrent dans un système cognitif. Hein. Donc ça peut être nous, organismes humains, mais ça peut être aussi bien la machine. Et à l'intérieur de ce système-là, il y a un traitement, des opérations, une série d'opérations. Donc voilà, effectivement, tout l'enjeu, c'est de préciser ces opérations, mais on va juste les évoquer comme ça. Et donc, on a une entrée, un centre d'opération, si vous voulez, un centre de traitement, et puis une sortie. D'accord, la sortie, c'est évidemment le comportement cognitif, c'est nos jugements, nos réactions physiques, c'est voilà tout ce qu'on peut faire en interaction avec le monde. Ce schéma-là, il structure les sciences cognitives et on verra que il pose en fait les enjeux parce que il il va s'interposer entre nous et puis notre expérience originelle, notre expérience naturelle du monde. Alors il va s'interposer de deux manières, c'est là où je me sens un petit peu faible par rapport aux propos de Madame Desprats, donc je pense que vous n'allez pas pouvoir faire complètement l'économie d'un retour sur le texte de la conférence, mais bon, pour le dire d'un mot, il y a dans ces deux théories l'idée de ramener l'ensemble des données empiriques, de toutes ces impressions donc, qu'on a supposé être à l'entrée du système, de les ramener à finalement une série d'opérations qui sont censées, enfin qui sont pensées comme le support de notre activité de représentation du monde et qui bon, voilà qui passe par des calculs un peu complexes. Donc on a cette idée que le monde ne nous, alors le monde naturellement ne nous est pas accessible en tant que tel, que finalement on se le représente, d'accord. Donc le point central de la, un des points centrales de la problématique, c'est le caractère représentationnel de la cognition, qui est commun aux deux théories que j'ai rapidement évoquées. Et puis La conséquence de ça, c'est que l'utilisation des machines à intelligence artificielle, eh bien, nous, enfin, comment dire ça, elle cherche à reproduire cette représentation dont il faudra peut-être vérifier, évaluer, se interroger si elle correspond réellement à ce qu'on appelle notre expérience naturelle, notre expérience vécue. Parce qu'effectivement, si elle ne correspond pas à ça, si par les machines, on a simplement comment dire, un voile, un intermédiaire qui vient se superposer entre nous et puis le monde naturel, et, finalement, on perd cet accès-là, ou en tout cas, la qualité de l'accès est largement modifiée. Voilà, je m'arrête là. C'est mon résumé. Il y a une deuxième partie dans la conférence qui est beaucoup plus portée sur les enjeux, notamment les enjeux politiques que peuvent avoir ces questions-là. Je suis pas rentré là-dedans. Je pense que de toute façon, ça m'aurait pris beaucoup trop de temps. Et puis, bah, ça vous laissera une part de motivation, d'intérêt à aller lire la conférence. Voilà, Madame Descraves. Je m'arrête là sur ce premier point.
Très bien, Benjamin, merci beaucoup. Je pense que c'est vraiment... voilà, vous avez fait un choix qui est tout à fait pertinent de vous focaliser sur justement cette thématique de la représentation, la dimension représentationnelle ou représentationnaliste qui est en jeu dans les théories donc, qui sont à la base de, finalement de l'intelligence artificielle de manière générale historiquement et puis des conséquences que ça a pour cette dernière vague de l'intelligence qu'est le deep learning actuellement. Donc je pense que c'est bien, c'est un peu le noyau dur, on pourrait dire du moins philosophique que posent ces théories pour un philosophe, pour un phénoménologue en particulier. Donc du coup c'est bien, je pense que vous avez mis le doigt sur un des points centraux. Qui va nous permettre justement de repartir de là. Donc à ce propos, puisque vous avez insisté sur cette question et sur le caractère éventuellement même problématique hein, de la dimension représentationnelle, on va y revenir avec Varela. Je pense que vous allez aussi vous-même le redévelopper un peu à la fin de la séance. Donc l'opposition finalement entre un paradigme représentationnaliste pur et dur, je dirais, et un paradigme que Varela nomme inactif, hein, donc qui met les choses en action, met en mouvement, qui incarne hein, et donc qui ne se satisfait pas d'une simple représentation formelle. Donc ça va être une alternative évidemment centrale et elle est aussi au cœur de votre travail. Donc je pense que c'est vraiment très bien d'avoir centré les choses ainsi. Donc je me permets de renvoyer tout le monde d'ailleurs à un ouvrage qui est sorti l'année dernière et qui va d'ailleurs dans le sens de tout ce que les étudiants de L3 qui sont actuellement en M1 avaient travaillé avec moi justement sur le thème de la représentation. On a passé toute une année l'année dernière à explorer cette thématique de la représentation et les dimensions d'irreprésentables, enfin, les limites de la représentation, enfin, aussi avec le regard de la phénoménologie donc, qui interroge en fait cette notion. Donc du coup je pense que là vous avez des matériaux que je vous incite à aller regarder à nouveau dans les matériaux de cours de l'année dernière de L3 pour ceux et celles parmi vous qui êtes en Master 1 et donc à ce propos aussi je vous invite tous à aller regarder à nouveau ou à aller regarder en premier lieu le travail donc, que j'avais publié avec Raphaël Künzler et qui figure dans la bibliographie qui est sur le site de l'ERIAC hein, des programmes de recherche. Donc vous pouvez le retrouver facilement. Donc c'est un collectif hein, que nous avons publié l'année dernière. Je suis en train d'essayer de retrouver la formulation exacte du titre. Donc voilà, les représentations mentales, comment les concevoir, comment s'en passer. Donc c'est paru aux éditions matériologiques en 2020, donc en février de l'année dernière. Et à la suite de ça, il y a aussi un débat qui a été organisé à la librairie Goldberg. Vous étiez un certain nombre d'être là. Vous étiez un certain nombre à être là, pardon, en mars. Donc à la suite de la publication de cet ouvrage, et où donc Franck Varenne et moi-même nous avons interagi. Donc à ce propos. Hein. Donc il y a aussi un audio, je crois, ou une vidéo même, qui est disponible. C'est une vidéo que Cinzia avait d'ailleurs réalisée, qui est disponible aussi sur le site de l'ERIAC. Bon, simplement pour vous donner quelques éléments supplémentaires que vous pouvez aller regarder, explorer, pour prolonger donc cette question de la portée et des limites des représentations. De façon, alors les représentations mentales, ça c'était en général, donc vous voyez qu'on est au croisement de la philosophie de l'esprit, donc anglo-saxonne analytique, et de la phénoménologie ici, mais en fait, comme vous le savez, j'imagine, à travers des cours que vous avez eus aussi avec M. Warren, la philosophie de l'esprit est une philosophie qui est directement adossée aux sciences, et en partie aux sciences cognitives, en dehors même de sa généalogie historique chez des philosophes comme Russell, par exemple, ou Quine plus tard. Donc il y a tout un travail empirique et expérimental qui sert d'adossage à cette philosophie et qui se relie directement à toute l'arborescence des sciences cognitives de l'après-Deuxième Guerre mondiale. Donc on est dans cette constellation-là. Et évidemment, moi, mon domaine de spécialité, ce n'est pas directement la philosophie de l'esprit, ce n'est pas directement... les sciences cognitives, même si j'ai eu l'occasion beaucoup de travailler avec justement Francisco Varela, donc j'ai pu y entrer par ce biais. Et donc ma perspective est vraiment de vous apporter un regard phénoménologique sur ces champs, sur ces questions, sur ces pratiques. Donc c'est ça l'orientation, disons, plus spécifique de ce séminaire de master. Et évidemment, in fine, débouchant sur cette dernière vague de l'intelligence artificielle, donc ce qu'on appelle la quatrième vague de l'intelligence artificielle, qui est donc le deep learning. Donc en essayant de voir finalement comment la phénoménologie peut à nouveau être sollicitée pour justement incarner, pour donner plus de dimensions concrètes et de vécu finalement à une technique, à une technologie, comme le disait Benjamin très justement. Une technologie qui est très pratique, mais qui en même temps est très vite assez difficile d'accès, qui suppose très vite des outils de compréhension et de formalisation que le Quidam n'a pas. D'où la séance du 24 février, qui va vraiment peut-être vous permettre de rentrer de façon très simple dans ce genre de pratique. À l'encontre du premier paradoxe que j'ai mentionné dans la conférence du 30 novembre et que Benjamin a bien rappelé. Voilà, donc ça, je pense que vous avez très bien fait ressortir un point central. Hein. Merci Cinzia pour le lien, effectivement, sur le site de l'ERIAC donc le débat avec Franck Varenne à la librairie Colbert. Alors, donc on va repartir de là. Donc je ne vais pas effectivement redéployer toute cette conférence qui, comme le disait Benjamin, inclut aussi un certain nombre de remarques et d'enjeux de type politique, sociaux et éthique concernant donc le rapport entre des dynamiques de contrôle des populations via ces technologies et le problème que pose donc la protection de la liberté individuelle et la liberté privée. Donc ça, c'est un aspect évidemment très important. Si vous regardez sur Internet et que vous tapez intelligence artificielle deep learning, vous allez trouver énormément de prises de parole, de colloques qui interrogent cette dimension éthique et politique. Hein, donc c'est sans doute l'aspect qui sollicite le plus le grand public et les personnes non initiées, disons, techniquement, ou les personnes qui ne sont pas dotées de compétences scientifiques suffisantes. Et c'est de fait une vraie question. Hein. Je pense que la population civile est tout à fait... On a affaire à une vraie difficulté, un vrai problème dont il s'agit de s'emparer. Donc là, le séminaire que moi je vous propose pour ces séances de master va inclure cette dimension, mais peut-être pas à titre majeur, hein, parce que là encore, voilà, mon champ est pas de spécialité, c'est pas la philosophie politique. Ni la morale, ni l'éthique. Donc je ne vais pas m'improviser finalement dans ces spécialités, même si vous voyez bien qu'en fait on a avec cette question une thématique très transversale qui implique plusieurs disciplines, plusieurs spécialisations. Alors on n'est pas spécialiste de tout, hein, ce serait vraiment évidemment aujourd'hui on sait bien que c'est plus possible, hein, donc être spécialiste de l'universel, c'est un peu un danger que Socrate très vite repérait chez les sophistes. Donc on va essayer de ne pas tomber dans ce danger-là et dans cette difficulté. Et on sait très bien que depuis la Renaissance, depuis après Montaigne, enfin, on peut plus prétendre à embrasser toutes les connaissances. Je vais tâcher vraiment de me situer sur mon terrain à moi, c'est-à-dire la phénoménologie. Et c'est depuis ce terrain-là, depuis cette situation, où là je peux vous apporter des éléments quand même assez, assez précis, assez fins, comme vous le savez. C'est depuis ce champ-là que je vais, depuis cette posture-là, très située, que je vais faire des ouvertures, hein, et explorer ces autres champs, ces autres champs de spécialité. Donc, comme vous savez, moi j'aime bien faire faire un type de travail philosophique transversal, donc qui ne se cantonne pas dans une seule spécialité. Mais en même temps, voilà, c'est un peu acrobatique, hein, parfois c'est un peu la quadrature pardon, du cercle, dans la mesure où on ne peut pas prétendre embrasser trop de choses, hein, comme je disais dans la séance de mardi, qui trop embrasse mal étreint. Donc il faut aussi apprendre à bien se poser, à bien se situer sa posture, cibler son propos. C'est aussi ça l'apprentissage de la recherche, hein, et donc d'une logique et d'une méthodologie de recherche. Donc ça vaut aussi pour ce séminaire, donc c'est un peu ce que je vous propose aussi de ce point de vue-là comme cadrage. Donc quelques éléments supplémentaires pour donner un peu une sorte de présentation des autres aspects de ce séminaire. Donc ce que je vais vous dire là repose sur deux documents que vous pouvez aller relire tranquillement, qui sont à la fois qui empiètent un peu l'un sur l'autre, mais qui développent des choses un peu différemment. Donc le premier document que vous avez à disposition, c'est la présentation que j'ai faite du séminaire de master dans le Memento, que vous pouvez aller relire, peut-être l'avez-vous déjà fait. Donc vous trouverez cette présentation aux pages 50-51 du Memento. Et vous avez donc deux paragraphes de présentation, quelques petites références, donc je reviendrai sur la bibliographie, voilà, ensuite il y a des questions des stages, donc là on n'est plus du tout concerné, enfin ces stages on les a déjà évoqués au premier semestre, donc c'est pas directement l'enjeu. Donc ça c'est le premier document que vous pouvez relire pour vous remettre un peu dans la, entrer un peu dans la question. Et puis le deuxième document que vous pouvez relire, qui est un tout petit peu plus long, qui tient en deux pages, c'est le document que vous trouverez sur le site de l'ERIAC, justement, qui présente le programme de recherche de cette chaire d'excellence, qui donc est une chaire qui se fait, je le mentionne parce que c'est très important, en partenariat avec une entreprise, l'entreprise AirTies, qui est une entreprise qui vend du Wi-Fi, et qui donc est très tournée vers les utilisateurs, et vers le rapport aux utilisateurs et comment la perception, le ressenti des utilisateurs par rapport à des systèmes de Wi-Fi. Donc c'est une entreprise qui a vraiment des enjeux d'application et de relations aux personnes. C'est cette entreprise, et notamment son PDG Philippe Alcaraz, qui finance cette chaire d'excellence, ce programme de recherche. Donc on a affaire à quelqu'un qui a vraiment un regard très ouvert, qui veut favoriser une recherche pour elle-même, hein, sans forcément une exigence de résultat, comme c'est souvent le cas dans un programme scientifique ou technique ou appliqué. Et donc, d'une certaine manière, on pourrait dire on a beaucoup de chance, j'ai beaucoup de chance, d'avoir bénéficié de cette opportunité. Donc, pas d'exigence de résultat, mais l'idée étant essentiellement de constituer un réseau, de susciter un intérêt, de faire réfléchir les gens, de stimuler des étudiants en début de recherche ou avancé pour engager des travaux de recherche en philosophie sur cette question. C'est tout une mise en mouvement d'une communauté de recherche, et donc c'est extrêmement c'est magnifique en fait de pouvoir bénéficier de cette opportunité. Donc ces deux documents que vous pourrez relire, je vais simplement ressaisir un certain nombre des lignes directrices qui permettent l'organisation de ces séances de séminaire. Donc comme le rappelait Benjamin, on a effectivement tout un temps qu'on va ressaisir ensemble, et qui est un temps plutôt, je dirais, de mise en place historique de ce courant, de cette branche des sciences cognitives qu'est l'intelligence artificielle. Donc on a une dimension de mise en place historique de cette de cette technique et de cette théorie, qui donc démarre après au moment de la guerre froide, donc dans les années 50, et qui donc prend appui elle-même sur des premières recherches qui avaient eu lieu juste après la Deuxième Guerre mondiale dans des conférences aux États-Unis qui s'appelaient les conférences MACY, M-A-C-Y, et qui ont donné lieu justement à cette arborescence des sciences cognitives, cette science de l'esprit, hein, enfin cette, la recherche d'une unité de l'esprit à travers toutes sortes de disciplines en fait qui ont été mises à profit pour essayer de construire un nouveau paradigme. On avait toutes sortes, enfin toutes les disciplines que qu'aujourd'hui on recense sous le terme de psychologie cognitive, mais aussi la sociologie, l'économie, évidemment la logique, les mathématiques, la physique, la philosophie. Voilà, on a toutes ces disciplines qui vont se mettre en relation. Donc ça, c'est juste dans l'après-guerre. Et l'intelligence artificielle émerge aussi de ce contexte très effervescent, finalement, d'échanges, de relations, de discussions. Donc on a un paradigme qui est lui-même très transversal et interdisciplinaire. Donc il y a un temps qui va être consacré à revenir sur ces débuts, finalement, les débuts de l'intelligence artificielle, sa naissance. Et donc l'interrogation qui est au centre, hein, de cette discipline, qui est de s'attacher à formaliser finalement le fonctionnement d'une machine, hein, un robot, un ordinateur, enfin, toutes sortes de machines, le fonctionnement donc d'une machine en prenant appui sur un analogone qui est le fonctionnement du cerveau. Donc on a d'une certaine manière dans ces débuts de l'intelligence artificielle, on pourrait dire qu'on a trois termes en présence. Hein, on a évidemment ce paradigme technique, technologique, donc de la construction d'une machine, pour le dire simplement. On a une exploration du cerveau donc, qui a donné lieu à toute l'arborescence des neurosciences, hein, basée sur la psychologie au départ, mais en fait en réalité ayant leur propre dynamique interne dans l'exploration même des réseaux de neurones. Et puis on a la dimension de l'esprit, hein, la recherche d'une unité de l'esprit, ou en tout cas d'une compréhension des différentes facettes de ce qu'est l'esprit. Donc vous voyez qu'ici on est à des niveaux différents, hein. L'esprit, d'une certaine manière, nous situe dans le champ de la psychologie et de la philosophie. Le cerveau, eh bien, c'est une enquête empirique qui nous situe sur le terrain des neurosciences. Et puis le fonctionnement d'une machine, eh bien, on est sur le terrain justement d'une intelligence qu'on va dire artificielle, parce que précisément c'est un artefact, hein, c'est une construction technique et technologique. Et donc toute la réflexion va porter d'une part sur la manière dont notre connaissance du cerveau, qui s'affine de plus en plus donc depuis les années 40-50 jusqu'à maintenant, peut donner lieu finalement à un modèle à partir duquel on va construire les machines. Donc on a une relation d'analogie, jusqu'où on peut modéliser, comment est-ce qu'on peut construire des machines qui soient les plus proches, performantes, et où le cerveau sert de point d'appui, sert de référence, d'archétype d'une certaine façon. Et puis la question qui est posée là, alors là je dirais par les neurosciences elles-mêmes et par le rapport à la philosophie, c'est finalement quelle est la relation entre l'esprit et le cerveau. Mais c'est d'une certaine manière une autre question, hein. Et en même temps c'est une question qui revient en permanence, puisqu'en réalité quand on s'intéresse au fonctionnement d'une machine, eh bien on est forcément amené très vite à se demander comment cette machine peut être autonome ou pas. Alors elle ne l'est jamais complètement, mais si elle est programmée d'une certaine façon, elle est programmée par un être humain. Et cet être humain, eh bien, il n'est pas juste un cerveau qu'on observe en troisième personne, il est aussi un esprit qui a un certain nombre de décisions à prendre en première personne. Donc vous voyez, on a un schéma qui complexifie évidemment la relation. On a une configuration à trois termes, et ces trois termes, en fait, sont en relation circulaire l'un avec l'autre, c'est-à-dire qu'on se reboucle en permanence sur la question finalement du fonctionnement de l'esprit et pas seulement du fonctionnement du cerveau. Donc ça c'est un peu la problématique générale finalement sollicite aussi la phénoménologie, parce que la phénoménologie, eh bien, se pose la question justement d'une relation au vécu, donc à une forme d'esprit qu'on appelle une conscience. Et cette conscience, eh bien, elle a toujours été considérée par les phénoménologues comme ne pouvant pas être réduite, évidemment, à un ensemble de mécanismes neuronaux, à un ensemble de mécanismes même comportementaux. Il y a une forme d'irréductibilité hein, qui est liée au vécu et qui est un des postulats majeurs de la phénoménologie. Donc quelque chose qui fait de l'esprit et donc de la conscience dans le vocabulaire de la phénoménologie, qui en fait une dimension plus complexe en réalité. Hein, le terme de complexité, vous l'avez mentionné, Benjamin, à juste titre, plus complexe, c'est-à-dire en fait irréductible, plus compliqué. Excédent, si vous voulez, situé au-delà de ou au-dessus, ou en tout cas surplombant, ne pouvant pas être réduit au cerveau et a fortiori à la structure de la machine. Donc si on a cette complexité qui est finalement posée, hein, comme à la fois comme un a priori, je dirais, mais aussi comme une expérience, hein, c'est pas juste un a priori sur un plan kantien, c'est-à-dire on considère que voilà, c'est comme ça, c'est posé, et ça ne peut pas être démontré, c'est pas seulement un a priori de ce type formel, c'est aussi un a priori expérientiel, hein, c'est-à-dire c'est aussi, et c'est ça la phénoménologie, c'est l'expérience qu'on fait chacun d'entre nous, chacune d'entre nous, d'être conscient d'un certain nombre de réalités, et cette conscience et ces vécus qu'on a sont des dimensions qui sont irréductibles à ce que nous pouvons observer en troisième personne de l'extérieur dans le fonctionnement d'un cerveau. Et a fortiori dans le fonctionnement d'une machine. Donc cette complexité à ce niveau-là, eh bien, elle va être sans cesse une interrogation, l'origine d'une interrogation sur la portée et les limites, finalement, de l'analogie entre le cerveau et la machine. Vous voyez, enfin, ça joue le rôle d'une sorte de vecteur d'interrogation. Alors, donc ça c'est un point important, plus global, disons. Mais on va revenir justement sur cette dimension à la fois historique et problématique. Donc ça, c'est un élément important. Ensuite, il y a un deuxième temps qui est très important, qu'on verra aussi dans ce séminaire. C'est un temps qui concerne justement l'émergence du paradigme connexionniste, hein, donc, que vous évoquiez, Benjamin, par rapport à un premier paradigme qu'on nomme symbolique, et qui correspond à une forme, à la première dimension du cognitivisme, enfin, dans sa version la plus formelle. Donc ces deux paradigmes, je vais en profiter pour faire un petit rappel et une petite correction, qui a déjà été faite d'ailleurs par Francis Rousseau après la conférence inaugurale et qui a été refaite à nouveau lors de la séance du 11 janvier. Donc décidément, il faut que je corrige ça dans mon texte. L'inflexion donc, que je fais ressortir dans mon texte et qui est un peu erronée ou en tout cas insuffisante, c'est de donner l'impression que ces deux paradigmes se succèdent dans le temps et que l'un est bien plus tardif que l'autre. Hein, donc le paradigme connexionniste, qui est une remise en question en partie, qui fait ressortir les limites du paradigme initial symbolique en intelligence artificielle, donc de fonctionnement des machines comme des algorithmes formels, qui aurait donc une cohérence interne et qui n'aurait pas besoin d'autre chose finalement que de qui serait autosuffisante et qui serait uniquement formelle, a été mis en question donc dès l'origine en fait des sciences cognitives, hein, dès la mise en place de ce paradigme et dès la naissance même du terme d'intelligence artificielle en 56 par John McCarthy, on a eu des contestations, hein, on a eu une forme d'hétérodoxie qui a surgi dès ce moment-là et qui s'est nommée ensuite connexionnisme. Cette distinction entre machine symbolique et machine connexionniste, elle est finalement presque co-originaire ou constitutive de l'émergence de l'intelligence artificielle. Et elle s'est développée de plus en plus. C'est vrai que le connexionnisme a pris un peu le dessus à un moment donné, dans les années 80-90, en lien précisément avec des mises en relation avec la phénoménologie. Donc ça, c'est un moment historique qu'on verra très particulièrement ensemble, parce que c'est aussi la mise en évidence de deux auteurs extrêmement importants qui sont Hubert Dreyfus. Donc je vais mettre ça sur le chat. Vous l'avez dans les documents, hein, Hubert Dreyfus, et dans les références aussi, D'un côté, Hubert Dreyfus et Francisco Varela. Alors, il y en a beaucoup d'autres, hein, mais disons, pour mentionner deux noms importants. Donc, on a deux auteurs qui sont des philosophes, enfin, qui sont à la fois des scientifiques et des philosophes. Hubert Dreyfus, davantage un philosophe initialement, et Francisco Varela, davantage un neurobiologiste initialement, et qui vont tous les deux, finalement, se positionner en faveur de ce paradigme connexionniste, et qui vont chercher justement à le faire d'autant plus valoir qu'ils vont le mettre en relation avec la phénoménologie, avec donc une science de l'expérience vécue du sujet en première personne. Donc du coup, on a à la fois une dimension co-originaire de ces deux paradigmes symboliques et connexionnistes, à l'origine des sciences cognitives et de l'intelligence artificielle, donc autour des années 56 et suivantes. Et puis en même temps, on a une accentuation de ce paradigme connexionniste avec la greffe phénoménologique finalement de ces auteurs dans les années déjà 70 pour Dreyfus, et puis 80 pour Varela et 90 pour les deux à nouveau. Donc on a une vingtaine d'années où là ça va devenir vraiment une sorte de brainstorming, d'une sorte de phénoménologie de l'intelligence artificielle dans le format connexionniste. Alors, qu'est-ce que c'est que ce format connexionniste? Peut-être, là aussi, il faut que je vous donne quelques éléments qu'a déjà évoqué Benjamin, mais peut-être les développer un tout petit peu plus. La caractéristique de cette hétérodoxie connexionniste, c'est de considérer qu'en fait, les machines formelles telles qu'elles ont été construites dans les débuts de l'intelligence artificielle, eh bien, elles sont... elle fonctionne beaucoup trop sur le schéma simplement input-output. Hein, c'est-à-dire, comme le disait Benjamin, on a un certain nombre de données du monde qui peuvent être aussi des données, enfin, qui sont des données physiques, mais aussi psychiques, hein, qui sont des identités aussi personnelles de chacun, qui vont être inclus dans ce qu'on appelle une machine, donc qui vont produire être formalisés sous la forme d'algorithmes. Ces algorithmes ensuite vont ressortir donc dans un output, donc on va avoir une sortie qui va permettre justement de nous redonner finalement ce qui a été mis au départ dans la machine, mais de le redonner sur le mode sur un mode de comment dire de il n'y aura pas de, il n'y a pas de différence majeure, on va juste reproduire quelque chose qui a été produit au départ. Par exemple, dans le deep learning, dans le cas de la reconnaissance faciale, on met dans la machine un certain nombre de données, qui sont les données par exemple, de l'individu, hein, qui correspondent aux données à la fois physiques, psychologiques, personnelles, etc., de l'individu historique. Et puis ces données, qu'elles soient visuelles ou autres, eh bien, elles vont sortir de l'autre côté, dans la output, elles vont sortir sur la base d'une possibilité d'identification de cette personne. Donc en l'occurrence, on inclut en l'occurrence un nom avec toutes ces données, et puis on récupère la reconnaissance de la personne sur un mode visuel. Donc cette dimension de reproduction ou de représentation, hein, comme l'évoquait Benjamin, elle va être mise en cause précisément dans ce paradigme connexionniste, en considérant qu'en réalité, le monde, l'humain, les données naturelles, finalement, sont irréductibles, sont plus complexes que ce que la machine va formaliser ou va représenter, ou va reproduire. Comme il y a cette complexité, hein, cette dimension donc de surplomb ou d'excès, ce qui va être, comment dire, on ne peut pas considérer que tout est inclus, finalement, toutes ces données sont incluses dans la machine. Alors, il y a une dimension d'excédent, et cet excédent, eh bien, il est considéré comme correspondant justement à la possibilité d'une autre modélisation. On va essayer de modéliser justement cet excès, d'en tenir compte, de tenir compte de cette dimension irréductible et de ne pas se contenter d'un paradigme qui reproduit finalement le réel comme si de fait on avait tout inclus dans la machine du monde et que tout ensuite était redonné du monde. Donc c'est vraiment ce constat vous voyez, qui est vraiment fortement phénoménologique en fin de compte, hein, c'est pour ça que aussi bien Hubert Dreyfus que Francisco Varela ont considéré que la phénoménologie fournissait un apport magnifique à une contestation d'un paradigme purement symbolique. Comment ils ont pu, de ce point de vue-là, considérer que la phénoménologie était l'outil majeur qui permettait de complexifier le paradigme de l'intelligence artificielle et de produire donc cette version connexionniste. Alors, qu'est-ce que c'est que le connexionnisme? Donc, le connexionnisme, c'est une avancée des sciences cognitives qui considère en fait la structure du cerveau, donc l'organisation des réseaux de neurones, génèrent à partir d'eux-mêmes un certain nombre de connexions qui sont elles-mêmes complexes. Et qui donc excède les données initiales. Donc on a un processus, finalement, une compréhension des réseaux, de l'organisation des réseaux de neurones qui cherche à épouser cette complexité, c'est-à-dire à épouser cette émergence, à épouser cette dimension d'excès des interrelations par rapport aux données initiales. Donc, vous voyez, on essaie de prendre appui sur cette a priori expérientielle d'un excès du monde, finalement, sur la machine, pour dire, mais en fait, regardez, les réseaux de neurones, eux-mêmes, ils ont une complexité. Ils ne se contentent pas d'interagir en reproduisant ce qui est déjà donné et en se situant sur le même plan. Ils produisent un nouveau plan. Qui est lui-même irréductible au plan initial. Et c'est ça qu'on appelle, en fait, qui va s'appeler globalement la théorie de l'émergence. Parce que l'émergence, c'est précisément un concept qui permet de penser un processus et qui, intuitivement d'ailleurs, est assez facile à comprendre, hein, dans n'importe quelle situation. Quand, par exemple, je prends une situation très simple, on est dans une. Vous êtes avec des amis en train de discuter. Vous arrivez chacun avec des idées, donc avec des données d'un certain point de vue, hein, des hypothèses, des façons de penser. Au fur et à mesure que la réunion se déploie et que chacun interagit avec les autres, hein, donc interconnexion, eh bien on voit émerger, on voit apparaître quelque chose qui n'était pas donné au départ. Hein, une idée apparaît. À la fin de la réunion, on se dit, ah bah tiens, voilà, c'est ça qu'on va faire. On n'avait pas forcément ça en tête. Aucune des personnes qui est arrivée au départ n'avait cette idée. Cette idée a émergé et elle apparaît comme une sorte de dimension beaucoup plus complexe, quelque chose qu'on n'avait pas en tête, quelque chose de nouveau, qu'on n'avait pas en tête, aucun d'entre nous n'avait ça en tête. Et c'est vraiment le fruit de la discussion, le fruit des interrelations qui a permis de générer cette idée. Donc on repart avec cette idée en disant, ben voilà, c'est ça qu'on va faire. On va construire tel projet, on va s'intéresser, on va finalement... on s'était réunis pour essayer de mettre en commun un certain nombre de données, et ces données vont nous amener, par exemple, à proposer la construction d'un abri pour les sans-logis, et c'était pas ça qui était prévu au départ, ou pour construire finalement un jardin qui va pouvoir avoir des dimensions qui n'étaient pas prévues au départ, etc. Donc vous voyez, en fait, le processus d'émergence, c'est quelque chose qui, d'une certaine manière, on dirait en philosophie, qui fournit une synthèse, mais une synthèse qui n'était pas forcément... qui de fait, une synthèse est toujours va toujours plus loin, hein, et le tout est toujours supérieur aux parties. Donc ça repose sur ce schéma-là, qui est un schéma philosophique assez connu, hein, par ailleurs, mais qui, d'une certaine manière, a été redécouvert dans le cadre de ce paradigme connexionniste, et qui a pris appui justement sur un a priori qui est celui de la phénoménologie et de la compréhension du monde comme une totalité qui jamais ne peut se réduire à des parties déjà disponibles, à des données déjà disponibles, et qui seraient juste additionnées les unes aux autres. Donc on va être amené aussi à avoir un deuxième moment dans ces séances où on va explorer de plus près justement ce paradigme connexionniste une radicalisation produite notamment par Francisco Varela depuis cette théorie de l'émergence et depuis le connexionnisme avec sa théorie de l'énaction dont nous parlera un peu Benjamin dans pas très longtemps d'ailleurs, hein, ça nous donnera une première vision des choses. Donc ça c'est un deuxième point qu'on va aborder précisément. Alors ensuite, il y a aussi d'autres éléments que je vais greffer à notre travail qui concernent davantage la phénoménologie. Parce qu'en fait, il faut aussi qu'on ait une conception de la phénoménologie qui ne soit pas simplement standard et historique, mais qui soit un peu ajustée finalement à ces questions que posent les sciences cognitives et l'intelligence artificielle. Donc on aura également deux temps qu'on va développer plus précisément, qui sont d'une part donc quelques repères à nouveau concernant la phénoménologie en tant que telle, mais bon, je pense que vous êtes quand même tous un petit peu maintenant au point concernant les grandes conceptions de la phénoménologie, qu'il s'agisse de Husserl, Heidegger ou Merleau-Ponty, puisque ce seront les trois auteurs qui vont nous concerner essentiellement là. Donc la relation à la conscience, au vécu, l'intentionnalité chez Husserl, la structure du monde, hein, de l'être au monde chez Heidegger, et la conception merleau-pontienne de à la fois du corps et du monde, hein, et de l'inscription dans la chair du monde. Donc on reviendra rapidement sur ces points-là pour vous donner que je puisse vous donner quand même les éléments essentiels des phénoménologies historiques qui vont nous servir de point de départ. Mais on s'intéressera surtout à la manière dont la phénoménologie s'est elle-même ajustée, développée pour répondre justement à des préoccupations pratiques et à des préoccupations de mise en acte, de mise en pratique, de mise en mouvement, d'incarnation encore plus concrète finalement, dans le cadre de cette relation donc avec des sciences cognitives elles-mêmes inactives, c'est-à-dire qui mettent en mouvement l'incarnation et qui ne se satisfont pas d'un paradigme seulement représentationnaliste, qui resterait formel ou mental. Et donc ce point-là nous amènera à mettre en scène un paradigme nouveau en phénoménologie, qui est le paradigme d'une phénoménologie pratique ou expérientielle. Et là, on prendra appui essentiellement sur un ouvrage que j'ai coécrit avec Francisco Varela et Pierre Vermersch, donc un psychologue, qui s'intitule, donc qui est dans la bibliographie, qui s'intitule À l'épreuve de l'expérience pour une pratique phénoménologique. Ou en anglais, On Becoming Aware, A Pragmatic Self-Experiencing. Donc on prendra appui sur cet ajustement de la phénoménologie à une mise en pratique, à une incarnation, une radicalisation finalement de la phénoménologie historique. Et on prendra aussi appui sur un petit ouvrage plus pédagogique qui s'intitule Comprendre la phénoménologie, une pratique concrète, donc que j'ai écrit et qui est paru chez Armand Collin et qui est aussi, je crois, dans la bibliographie. Que je vous redonnerai si nécessaire. Donc ça, ce sera un troisième temps qui, voyez, qui va nous permettre de construire progressivement les différents aspects de cette problématique. Et enfin, on aura aussi une autre dimension donc, qui va être centrale dans ce travail, qui est je dirais une troisième vague de la phénoménologie. Hein, de même, on a quatre vagues de l'intelligence artificielle. En phénoménologie, on peut dire qu'on a trois vagues principales. La vague historique, la vague pratique, en tout cas du point de vue donc, qui est le mien et dans ce format-là de travail, et puis une troisième vague qui est ce qu'on appelle la micro-phénoménologie, et qui d'une certaine manière, c'est très intéressant parce qu'en fait cette micro-phénoménologie, troisième vague de la phénoménologie, en tout cas dans cette relation et discussion avec les sciences cognitives et l'intelligence artificielle, la troisième vague de la phénoménologie de ce point de vue-là est très récente. De même que le deep learning est très récent. Hein. D'une certaine manière, le deep learning est une technologie de l'intelligence artificielle qui a entre 10 et 15 ans d'existence. De la même manière, la micro-phénoménologie est une discipline qui est née depuis 10-15 ans. Le nom de baptême de la micro-phénoménologie est très récent, il date de 2016. Mais d'une certaine manière, la pratique elle-même, elle remonte à 10-15 ans. Et donc, on sera amené à s'intéresser à cette troisième vague et comment elle permet de s'ajuster encore mieux à la compréhension des enjeux internes à la quatrième vague de l'intelligence artificielle et du deep learning. Donc là, ce sera aussi un point qu'on va travailler de près et qui fournira donc des pistes de recherche et d'interaction entre les, justement une approche en première personne et une approche en troisième personne. Approche en première personne, la phénoménologie dans sa dimension micro-phénoménologique. Donc, grosso modo, la micro-phénoménologie, c'est une démarche qui s'intéresse à la description d'une expérience vécue situé hic et nunc, donc vécu par un sujet singulier. Donc ça n'est pas une structure d'expérience, c'est vraiment une dimension, on pourrait dire presque empirique, expérientielle de la phénoménologie qui est en jeu, et qui permet de rencontrer justement des problématiques techniques, expérientielles et empiriques du deep learning. Alors les auteurs importants de la microphénoménologie, c'est Pierre Vermersch, que je mentionnais tout à l'heure déjà, donc voici son nom. Pierre Vermersch, donc qui est un psychologue formé à l'école de Jean Piaget et qui a forgé dans les années 90 une technique d'entretien qui est l'entretien d'explicitation, donc, dont je vous ai indiqué aussi un certain nombre de références. Le manuel principal s'intitule l'entretien d'explicitation. Cette technique d'entretien, ça a été rebaptisé récemment en 2016, donc dans le cadre d'une discussion, c'est intéressant, c'est exactement le processus d'émergence que je décrivais tout à l'heure concrètement, dans le cadre d'une discussion qui a lieu aux Archives Husserl à Paris, avec moi-même, Claire Petit-Mangin, Michel Bitbol et Dominique Pradel, donc le directeur des Archives Husserl. Donc avec ces quelques personnes, la discussion nous a amené à proposer donc le terme de microphénoménologie. Je reviendrai évidemment sur ce point-là et sur l'intérêt finalement de la microphénoménologie pour revenir et comme je le disais dans la conférence inaugurale, venir un peu à la rescousse finalement de l'algorithmisation extrême finalement du deep learning et les difficultés donc de remettre en scène en réalité l'humain au sein même de ces algorithmes, l'humain et l'expérience vécue. Ça ce sera un point aussi important, et puis on aura évidemment aussi un travail possible sur le deep learning lui-même, le machine learning, donc la dimension prédictive de ces machines et comment ça fonctionne, donc comment elles ouvrent des possibilités d'application à des applications tout à fait passionnantes, comment elles mettent en place un paradigme d'anticipation, de prédiction, ce qui est leur marque de fabrique propre, je dirais, par rapport aux vagues antérieures de l'intelligence artificielle. Et là, à ce propos, donc, il y a un certain nombre de références que vous pouvez aller regarder aussi, et qui se trouvent dans la bibliographie, donc qui est à la fin de la présentation, soit à la fin du memento, dans les textes de référence. Par exemple, vous avez un ouvrage très synthétique et très intéressant de John Kelleher, donc je vous indique, Kelleher, qui date de 2019 et qui est paru chez MIT Press, et qui s'intitule, c'est dans la bibliographie page 50 dans le memento, qui s'intitule tout simplement Deep Learning, hein, pour commencer. Hein. Donc ça, c'est une première référence que vous pouvez aller lire. Et puis, dans la bibliographie plus importante que j'ai indiquée sur le site de l'ERIAC, vous avez un certain nombre de références, par exemple, un travail de Charu Argaval, qui s'intitule Networks and Deep Learning, le textbook, qui date de 2018. Il y a un certain nombre de références. Beaucoup de ces ouvrages sont parus chez MIT Press, qui est la grande maison d'édition américaine qui promeut beaucoup en ce moment le deep learning. Ça c'est aussi un point qu'on va explorer progressivement. Je vous propose aussi, je vous invite aussi à aller lire un article que j'ai mentionné. Excusez-moi, j'ai le facteur qui arrive, si vous pouvez attendre 2 secondes, j'arrive.
Ah oui, je vous ouvre. Premier étage du bâtiment rue.
Oui, excusez-moi. Alors en fait, le facteur est là, mais il s'est trompé. Il est allé dans l'autre bâtiment. Donc je pense qu'il va ressonner. Bon, c'est un peu compliqué. Mais voilà, donc on ne fait pas vraiment de pause. Je continue juste sur ce point. Et puis peut-être je vais être à nouveau interrompue. Et voilà. Donc du coup, qu'est-ce que j'étais en train de vous dire? Je suis un peu perdue. Oui, donc j'étais en train de vous indiquer une référence intéressante justement sur l'histoire des... Ah ben voilà, excusez-moi, je m'interromps 2 secondes, j'ai à nouveau quelqu'un qui vient. Voilà, excusez-moi, c'est bon. donc oui, je voulais vous indiquer un article qui est intéressant, qui est dans la bibliographie, que vous pouvez regarder, trouver sur Cairn directement en ligne, qui est un article de Dominique Cardon, qu'il a co-signé avec Jean-Philippe Cointet et Antoine Mazière. Donc vous le trouverez dans la bibliographie dans l'Humainto. Et ça s'intitule « La revanche des neurones ». L'invention des machines inductives et la controverse de l'intelligence artificielle. Donc c'est vraiment un article très intéressant qui refait une sorte d'historique. Ces 3 auteurs sont des sociologues, donc ils ont l'avantage de proposer un panorama et en même temps de poser des questions de fond sur cette évolution. Donc il n'y a pas d'implication ici de la phénoménologie, hein, donc dans l'approche, c'est relativement faible à ce niveau-là. Mais par contre, voilà, ça vous donnera vraiment une mise en perspective. Donc je vous invite, peut-être c'est le texte important que vous pourriez lire pour commencer, je dirais, pour vraiment vous mettre un petit peu en route sur cette question. Voilà, pour démarrer, je pense que ce serait pas mal. D'ici la semaine prochaine, si vous pouviez lire cet article. Moi-même, j'ai repris certains des éléments de cet article concernant justement la faiblesse du rapport au monde. L'article que je viens de mentionner, Loïc, de Dominique Cardon. Dominique Cardon, il est dans la bibliographie du Mémento et ça s'intitule La revanche des neurones. Voilà, et vous le trouverez en fait dans le Mémento, dans la présentation de mon séminaire. D'accord? Ça, c'est sans doute l'article que vous pouvez commencer par lire voilà, pour commencer à vous frayer un chemin dans ces différents points. Alors, en fait, à partir de là, donc de cette mise en place un peu globale encore, concernant le travail de validation que vous aurez à faire. Je ne vais pas prendre trop de temps maintenant, puisqu'il est déjà 11h58, mais quand même vous donner quelques éléments. Et en début de prochaine séance, donc la semaine prochaine, je reviendrai plus en détail sur ce que je peux vous proposer comme genre de travail de validation. Donc vous voyez, c'est ce que je vous ai indiqué ici est un peu un chantier, hein, il y a beaucoup de perspectives, il y a beaucoup à la fois de dimensions historiques, théoriques et interdisciplinaires. Certaines mettent plus en avant la phénoménologie, d'autres plus en avant l'intelligence artificielle. Il y a aussi donc toute une partie que je n'ai pas évoquée ici concernant les enjeux sociaux, politiques et éthiques du machine learning ou deep learning. Donc il y a toutes sortes de facettes. Donc évidemment, vous êtes tout à fait libre de choisir le support qui vous intéresse le plus. Soit plus phénoménologique, dans l'une de ces trois vagues, historique, pratique ou micro-phénoménologique, soit plus centré sur l'intelligence artificielle, soit dans sa dimension plus historique de point de départ, la controverse du démarrage de l'intelligence artificielle avec John McCarthy, soit plus récente avec le paradigme connexionniste, soit plus encore récente avec le paradigme deep learning. Évidemment, l'idée, c'est de construire à chaque fois quand même une petite interface d'un axe à l'autre, puisqu'en fait, le séminaire est construit sur ce tissage. Mais l'accentuation peut être plus phénoménologique ou plus intelligence artificielle. Enfin, vous avez aussi la possibilité de vous centrer davantage sur les enjeux éthiques ou politiques du deep learning et de l'intelligence artificielle de façon générale. Donc vous voyez, vous avez toutes sortes d'entrées possibles dans ce séminaire au mode de validation, quant à la validation, quant au travail que je vous demande. Donc ce que je vous propose dans un premier temps pour aujourd'hui, c'est de commencer à réfléchir sur la facette qui vous intéresserait le plus. Hein, donc vous voyez, grosso modo, il y en a en tout, il y a 7 facettes possibles. Hein. Soit 3 du côté de la phénoménologie, 3 du côté de l'intelligence artificielle, et les enjeux sociaux, éthiques et politiques, que je mets un peu en chapeau, mais qui est une septième facette. Hein. Donc réfléchissez dans ces 7 dimensions à la dimension qui vous dans laquelle vous voudriez vous centrer le plus. Donc pour l'instant, c'est à peu près tout ce que je vous propose de faire pour la semaine prochaine, hein, de réfléchir à cela, et en début de ces séances prochaines, on reviendra sur ce point, et je vous demanderai à l'un et à l'autre, je vous demanderai ce que vous avez en tête, ce que vous auriez envie de faire. Et sur la base de cela, je vais vous donner plus d'informations et plus d'indications. Donc je vais finalement reprendre un peu une présentation encore générale, mais en déclinant beaucoup plus précisément ces différentes facettes, de façon à vous permettre encore mieux de vous situer et de savoir ce qui peut être intéressant pour vous. Je vous donnerai évidemment des consignes assez précises sur comment faire et quoi faire, hein, un peu comme on l'a fait au premier semestre. Donc pour la semaine prochaine, je vous propose de faire cela. De bien réfléchir, soit vous m'envoyez un mail d'ici jeudi prochain, soit vous êtes un peu plus au clair sur ce que vous voulez faire et vous pouvez le communiquer, on fera un petit tour de parole en début de séance. Et puis l'autre chose que je vous invite vraiment à faire, c'est de lire l'article de Dominique Cardon, La revanche des neurones, qui est un article récent, hein, c'est un article de 2018, hein, donc c'est dans la revue Réseau. Et il est disponible sur le site Cairn, hein, Revue Réseau 2018, vous le trouverez dans la bibliothèque. Donc ça vous donnera des outils aussi, alors pas tellement concernant la phénoménologie, mais en tout cas concernant la base à partir de laquelle justement la phénoménologie va être activée pour nous. Hein. Donc pour la semaine prochaine, voilà ce que je vous propose de faire. Si ça vous convient, sans trop de transition, du coup, je donne la parole à nouveau à Benjamin, de façon à ce que vous puissiez, Benjamin, nous présenter votre travail de recherche, et donc ouvrir déjà une porte, hein, de tissage entre les sciences cognitives et la phénoménologie via Varela. Et ensuite, à la fin de votre présentation, on prendra 5-10 minutes pour des questions, de vos camarades, un petit échange avec tout le monde, si ça vous convient.
Oui, ça me convient, évidemment. Alors, attendez, j'ai un retour horrible.
Donc, je vais couper mon micro, ce sera plus simple aussi.
Alors, peut-être que... Oui, c'était ça. Merci beaucoup, Madame Desbrosses. Oui, alors, peut-être même qu'on aura plus de 10 minutes à consacrer à l'échange collectif, parce que 40 minutes de prise ou 50 minutes de prise de parole, ça me paraît peut-être un peu long. Mais enfin, on verra.
En fait, juste Benjamin, le séminaire se termine à 12h30, hein, donc là il est 12h04.
Ah merde, ah mince, voilà. J'étais sur 13h. Pardon.
Donc tout va bien.
Super, c'est parfait comme ça. Alors très très vite, pour vous présenter un petit peu mon travail, en tout cas l'amorce de mon travail sur la relation. Hein. C'est un travail qui porte sur la relation, la référence que Francisco Varela fait à Husserl, et plus largement bien sûr à la phénoménologie, dans beaucoup de ses textes, et effectivement surtout dans des textes qui sont à partir de la fin des années 80, début des années 90. Sa pensée vient piocher en fait dans la phénoménologie certains outils et certains arguments qui vont aller en faveur de sa propre théorie de la cognition. Voilà, donc moi je suis dans cette recherche-là, j'essaie de comprendre pourquoi il fait référence à Husserl et qu'est-ce qui se passe dans ces références-là. Alors, Varela emprunte toujours le même cheminement en fait pour présenter sa propre théorie de la cognition, donc je vais très rapidement essayer de suivre ses pas. On s'est mis au clair sur le fait que la cognition, c'était une façon de désigner donc l'intelligence, qu'elle soit humaine ou artificielle, et plus précisément par cognition on entend cette idée d'acte particulier, d'accord, d'opération mentale particulière, hein. Il y a cette idée qu'on isole vraiment peut-être le geste moteur par lequel on attrape un stylo, le geste mental par lequel on cherche à définir une idée ou à concevoir une image. Bon voilà, on est sur cette idée-là de la cognition. Et elle se décline, donc elle peut se décliner sous la forme de l'intelligence artificielle. Je voulais donner des exemples en fait pour essayer d'être un petit peu plus concret. Par intelligence artificielle, qu'est-ce qu'on pouvait se mettre à l'esprit? Donc il y avait la reconnaissance faciale qu'on a évoquée au début, il y a la capacité à faire traduire des textes d'une langue à une autre par les machines, la capacité à leur faire prévoir la météo, à même faire des diagnostics de maladies, à détecter des fraudes à la carte bancaire par exemple, ou à ce qu'on connaît tous assez bien, personnaliser un fil d'actualité sur un réseau social quelconque. Voilà, donc on est dans ce registre de choses, et Varela est intéressant justement quand il s'agit d'aborder la théorie qui sous-tend toutes ces applications, parce que comme on l'a vu, les théories dominantes en sciences cognitives, les théories sur lesquelles l'intelligence artificielle s'appuie, ce sont des théories représentationnelles. D'accord. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? On va essayer de rentrer un peu dans le détail de cette notion-là, qui nous est bien connue en philo, mais qu'il est nécessaire de repréciser. En fait, les théories de la cognition, celles qu'on a dit, historiques, qu'on appelle computationnelles, enfin, plein de noms, ou connexionnistes, ce sont des théories qui sont basées sur l'idée d'un traitement de l'information. Et donc sur l'idée que l'intelligence humaine ou artificielle fonctionne en s'appuyant, en traitant des choses qui existent à l'extérieur du système cognitif, d'accord ? Je pense que cette idée elle passe assez facilement, c'est l'idée que bon voilà, on a des traits spécifiques, des caractéristiques qui sont d'un objet par exemple, hein, donc il a une couleur, une forme, une taille, tout ce qu'on veut, et que le cerveau va en quelque sorte capter par les sens et par le réseau de neurones qui s'associe à ces sens-là, il va capter ces traits caractéristiques pour les traiter. Alors, soit ils les traitent localement, ça c'est plutôt la théorie de la computation, des symboles, soit ils le traitent de façon globale, avec cette idée de propriété émergente au niveau global, hein, au niveau de l'ensemble du réseau de neurones. Bon, dans les deux cas, les deux théories, elles présupposent qu'il y a un monde extérieur stable, indépendant, qui existe en dehors du système cognitif. D'accord? C'est l'idée sous-jacente à cette notion de représentation que sur laquelle Varela insiste, en fait. Bon, si ça c'est clair, la suite va aller presque de soi. Comme il y a cette idée d'un monde extérieur, il y a aussi une réalité extérieure. On se représente la connaissance comme cette opération entre un sujet, d'accord, donc on appelle ça système cognitif pour dire bon, ça peut être un animal, un humain ou une machine. Bon, en philo, on utilisera le terme de sujet, sauf pour les machines évidemment, mais voilà, il y a cette idée d'une subjectivité qui, quelque part, fait face à une réalité extérieure, d'accord. Donc on discerne comme ça deux dimensions dans la relation de connaissance, la dimension subjective, la dimension objective. Tout ça nous est quand même bien connu. Donc ça, présupposé commun. Là où Varela est vraiment intéressant, c'est qu'il va insister, il va montrer que cette conception-là de la connaissance soulève un certain nombre de problèmes. D'accord. Alors, on peut noter deux séries de problèmes. La première, c'est des problèmes qui sont liés à ce qu'il appelle l'expérience du sens commun, c'est-à-dire l'expérience qu'on fait tous du monde. Là, il soulève notamment que ces idées d'une cognition symbolique ou connexionniste, elle repose sur la mise en évidence d'un fonctionnement du cerveau face à une situation donnée. D'accord? Bon, la situation donnée, c'est un objet à un endroit, c'est une photo avec un petit chat dessus, c'est peut-être effectivement une émotion, l'expérience d'une émotion, des choses comme ça. Mais pour construire des machines intelligentes, on est obligé de repartir d'une espèce de fiction théorique qui consiste à définir des situations séparées les unes des autres et puis à voir dans une situation donnée comment la cognition fonctionne. Bon, c'est pas l'expérience qu'on fait dans le quotidien, en fait. On ne vit pas en ayant l'impression que de façon séquentielle une situation succède à une autre et qu'elle serait bien délimitée. Au contraire, nous, on fait l'expérience d'une continuité, d'une continuité d'une situation à une autre. Donc déjà, premier point, c'est que le sens commun ne semble pas confirmer une des présuppositions des théories cognitivistes. Et Varela insiste aussi sur l'idée que ces situations données à partir desquelles on essaie de réfléchir sur le fonctionnement de l'intelligence, elles vont aussi passer par l'identification, je l'ai évoqué tout à l'heure, de traits caractéristiques en fait d'un objet. On retient donc sa taille, on retient des paramètres en fait, un certain nombre de données. Ça peut être très compliqué. Par exemple, pour définir une image, on va retenir l'ensemble des pixels, par exemple la couleur que peut prendre tous les pixels. Et sur une page d'une résolution modeste de, par exemple, 400 par 400, ça fait déjà 160 000 pixels que la machine doit traiter. Mais malgré tout, ça reste la même logique de retenir des traits caractéristiques. Alors que dans notre expérience du sens commun, on n'a pas cette impression d'un rapport avec un ensemble fini en fait de caractéristiques. On a plutôt l'expérience inverse, que l'expérience qu'on vit, elle comporte un nombre infini de données. Et là, ça vient fortement contredire. Donc il y a cette on peut le considérer comme un problème, on peut le considérer peut-être simplement du point de vue du cognitivisme comme un obstacle qui finira par être résolu à force de précision. Mais voilà une première série de problèmes que pointe Varela. Le deuxième problème qui pointe, et là c'est ce problème-là sur lequel j'insistais moi à l'ouverture de mon travail de mémoire, c'est un problème de méthode des sciences cognitives. Alors bon, c'est un peu technique, donc je vais essayer, je vais peut-être lire en fait ce passage-là pour ne pas trop vous perdre et ne pas regretter d'être passé à côté d'une bonne formulation. Donc le problème de la circularité que pointe Varela, donc c'est un problème de méthode dans la manière dont les sciences cognitives abordent la cognition. Le problème, c'est que le monde dont le cogniticien cherche à établir comment il est en relation donc avec un dispositif cognitif, comment ce dispositif finalement se représente le monde, donc par exemple comment le cerveau humain se représente le monde, et ben ce monde, il précède lui-même le cerveau humain. Et il le précède d'une manière active, si je puis dire, puisque notre dispositif cognitif, notre cerveau, il se construit dans un monde qui est déjà là, et il se construit du fait de ce monde qui est déjà là. Là, c'est les mécanismes simplement biologiques. On peut penser tout simplement à ça. Donc, en fait, le monde qu'on essaie le monde qu'on suppose être représenté par notre cerveau, c'est un monde qui précède lui-même le cerveau. Donc il y a un problème de circularité, c'est que la définition qu'on va donner de cette représentation, il faut qu'elle puisse inclure ce phénomène d'antériorité en fait du monde. Il y a voilà un niveau de complexité. On n'est pas simplement dans un face-à-face. Si jamais on était dans un face-à-face, on est dans un face-à-face dynamique où ce qui nous fait face, à un moment donné, au moins d'une façon logique, se trouve derrière nous, quoi, nous précède. Donc voilà, c'est ce problème-là que pointe Varela. Et ce qui est très très intéressant, c'est que ce problème-là, il se redouble en fait d'un problème d'incomplétude. C'est comme ça que je l'ai baptisé, on peut peut-être trouver un meilleur nom, mais un problème d'incomplétude des sciences cognitives, c'est-à-dire que une théorie de la cognition, on la considérera comme toujours incomplète tant qu'elle ne sera pas capable justement de décrire ce phénomène d'antériorité. Voilà, elle ne peut pas faire l'économie de cette, on pourrait le reformuler comme ça, une théorie de la cognition complète, elle ne peut pas faire l'économie d'une explication de l'acte particulier qui consiste à déjà faire partie du monde, en fait. Et cette expérience de déjà faire partie du monde, c'est ce qu'on peut appeler simplement l'activité consciente, d'accord ? Puisque effectivement, la conscience, elle s'exerce quelque part, d'accord ? Donc elle s'exerce... Donc voilà, on a ce problème de circularité où ce qui se manifeste à moi, c'est aussi ce qui fait que je suis moi. Donc voilà, cette reprise-là doit être expliquée dans la théorie de la cognition, sinon on va la considérer comme incomplète. Alors c'est bon, il y a plein d'explications qui sont possibles, hein. On va pas rentrer dans le détail, mais c'est, je vais le dire simplement d'un mot pour pas être trop long, c'est à ce moment-là que Varela va s'appuyer sur Husserl, va aller piocher dans la phénoménologie, parce que ce problème de circularité a déjà été repéré par Husserl et qu'il a cherché à... donc ce problème de circularité, c'est le problème de la participation au monde, d'accord ? Le problème que la conscience est une activité particulière qui consiste à... être là, si je puis dire, mais pas seulement être là en relation avec quelque chose. D'accord ? Donc, dans cette idée-là, on retrouve la formulation qui est connue de tous de l'intentionnalité. Et ce qu'on comprend, c'est que l'intentionnalité, pour Varela, c'est une notion très intéressante parce que c'est une notion qui décrit, en fait, cet acte particulier de la cognition qui consiste à la fois à être quelque part, à être dans le monde et en même temps à être en relation avec quelque chose. Donc, pour rappel, l'intentionnalité, c'est cette activité de la cognition qui consiste à se rapporter à quelque chose. On enlève tout contenu possible, il nous reste toujours ça. Pour qu'il y ait des contenus, il faut qu'il y ait une relation à quelque chose. Donc c'est là-dessus que, enfin, c'est sur ce point que Varela va aller piocher va aller mobiliser la référence à Husserl, à la différence qu'il reproche à Husserl d'avoir une vision, au moins dans un moment de l'histoire de la pensée de Husserl. Varela trouve que ce philosophe a une position qui est, a une conception de la conscience qui est trop désincarnée. Et donc lui va défendre une position qui va être, effectivement, qui va insister sur le caractère d'inscription dans le monde de la conscience. Bon, c'est une critique qu'il faut nuancer, moi j'en suis là pour l'instant, parce que Husserl aussi évolue dans sa pensée, et qu'il développe peut-être dans une période plus tardive la notion de monde vécu, qui renvoie à ce qu'on a appelé l'antériorité, quoi. Donc c'est une antériorité logique, hein, c'est pas une antériorité chronologique, mais qui renvoie à cette idée que la conscience ne peut pas exister en tant qu'activité cognitive sans qu'elle elle soit dans une interaction, dans une dynamique avec un monde vécu qui la précède. Voilà, on parle d'arrière-plan dans le vocabulaire de Searle, je crois. Voilà, donc on en est là. Il me reste une toute petite minute pour vous dire que ça devient un problème très compliqué, hein, celui de décrire justement le fonctionnement de la conscience, hein, donc conscience, expérience vécue, antériorité du monde vécu. Bon, c'est des notions qui me semblent encore très proches. Il y a certainement des subtilités à mettre en avant. Je ne suis pas encore très compétent pour le faire de façon précise. On va considérer que tout ça, c'est un petit peu la même chose pour l'instant. Et on va insister sur le fait que décrire ce phénomène-là, décrire la conscience, pour le dire d'un mot, c'est extrêmement compliqué, parce que justement, c'est décrire quelque chose qui précède la conscience. Décrire l'activité consciente dans sa dimension dynamique, ça suppose de pouvoir décrire quelque chose qui, du point de vue logique, précède la conscience, donc précède l'exercice de la pensée, précède l'exercice du langage, donc en gros l'exercice de la rationalité. Donc il faut trouver des moyens rationnels pour parler de quelque chose qui est très rationnel, très logique. Et évidemment, on sent que ça va pas être facile. Et pour Varela, lui propose l'approche l'approche inactive pour résoudre ce problème-là. Il propose l'idée que le monde et le moi, la conscience et le monde des objets sont en fait dans une relation de co-constitution, de co-définition mutuelle, c'est-à-dire que les deux apparaissent en même temps et les deux sont dans une dynamique où ils se modifient l'un l'autre. Hein, ce qui signifie simplement que la conscience donne une signification au monde, elle repère des objets qui ont un sens pour elle, donc elle constitue ainsi un monde, et ce monde-là agit sur la conscience, la modifie la conscience en tant que dispositif cognitif, ce qui va avoir une incidence évidemment sur la manière dont ensuite la conscience va continuer à donner de la signification au monde. Voilà, j'espère que c'était pas trop confus. Je m'arrête là. Si vous avez des questions, si vous avez des objections et des contradictions, faut surtout pas modifier en quel sens. Modifier en quel sens? Eh ben, au sens où elle modifie en quel sens? En fait, elle modifie en quel sens? Elle modifie dans le sens de l'histoire qui lui est propre. Si par en quel sens, la question c'est dans quelle direction? Je serais tenté de répondre que ce qui oriente l'incidence de cette modification, c'est justement le parcours vécu, l'histoire vécue par cette conscience. Et ça, à la limite, on peut y faire droit, parce que nous tous, je pense, dans nos vies personnelles, on sait bien que ce qu'on a vécu par le passé a une incidence sur la manière dont on voit les choses maintenant. Et les deux effectivement, puisque perception, si on entend par perception ce monde représenté ou ce monde objectif, et par identité mon moi, c'est-à-dire la structure qui est à la base de ce monde, les deux en fait sont en perpétuelle modification parce qu'ils sont dans une dynamique de redéfinition mutuelle. Pour donner une image simple, moi je pense à la boucle de l'infini, si vous voulez. Vous voyez ce mythe que l'on couche pour décrire l'infini. Imaginons que la conscience, c'est le point de croisement qui est au milieu. Et ben, la cognition, ce serait un mouvement de ce genre-là. Je sais pas si c'est une image que validerait Varela, mais bon, moi, ça m'aide à essayer de me représenter tout ça. Voilà, donc je m'arrête là pour vos remarques, contradictions, objections. N'hésitez pas, parce que tout ça est encore très imprécis. Voilà, merci. You are now
unmuted. Merci beaucoup, Benjamin. Ça permet d'ouvrir des pistes, déjà de rentrer un peu dans la conception de Varela et de sa conception de la cognition. Je pense que ce que vous avez indiqué au tout début concernant justement le sens de la cognition, c'est très intéressant parce que ça permet d'avoir une structure qui est justement transversale à l'humain et à l'artefact. Hein, donc de se dire, voilà, la structure de la cognition, elle joue un rôle de chapeau et aussi d'ailleurs pour les autres vivants que l'humain. Et donc ça permet de penser finalement... de sortir en fait d'une critique qui est celle qu'on fait souvent à la phénoménologie en considérant qu'elle reste subjectiviste, hein, donc qu'elle reste attachée à une conception métaphysique de la conscience ou de la subjectivité. Et donc ça permet de situer la phénoménologie dans un cadre plus large, mais où elle peut trouver ses marques en pensant finalement le sujet comme une structure, comme un système. Donc le terme de cognition, il est intéressant, il est plus intéressant que système et structure d'ailleurs, parce qu'en fait il est beaucoup moins formel. Quand on parle de cognition, bah, on entend un processus, on entend on peut entendre des vécus, on peut entendre des états internes. Donc on a une notion qui est très fédératrice en fait, et qui permet à mon sens de sortir de conflits ou d'oppositions doctrinales entre des types de philosophie. La philosophie de l'esprit et la phénoménologie, mais aussi entre des fractures et des hétérogénéités concernant justement la dimension naturelle ou artificielle des différents agents. Vous voyez, le terme agent de ce point de vue-là est intéressant aussi. En tout cas, je voulais faire juste cette remarque pour commencer. Et puis aussi, concernant la notion de circularité que vous avez évoquée, effectivement, je pense que c'est une notion très très importante pour comprendre justement les processus cognitifs. Et de ce point de vue-là, je vous renvoie à un texte qui est un ensemble d'articles qui ont été publiés aux éditions du Seuil et qui s'intitule « Le cercle créateur ». Donc ça a été édité par Michel Bigbol, mais ce sont des articles de Francisco Varela. Donc ce sont des articles qui sont dans une périodisation d'une vingtaine d'années et qui mettent l'accent justement, qui permettent de rassembler en fait un ensemble de travaux qui étaient dispersés. Et qui permettent de comprendre aussi justement cette dimension dynamique de la pensée de Varela, le cercle créateur, donc notion de création, il faut l'entendre au sens d'une dimension dynamique, hein, pas au sens du tout théologique, et le cercle, vous voyez, donc on a l'image du cercle, donc de la circulation, et donc c'est un cercle qui n'est pas du tout vicieux, là en l'occurrence, hein, c'est vraiment un cercle vertueux, qui est producteur de sens, producteur de dimensions nouvelles, justement, producteur de quelque chose qui n'était pas encore là, hein, et qui émerge précisément. Donc je vous invite à vraiment aller regarder ce texte si ça vous intéresse. Peut-être on a encore quelques minutes pour des questions, pour des développements, des remarques qui peuvent concerner soit la présentation de Benjamin, soit son résumé de la conférence, soit ce que j'ai mis en place, des questions pédagogiques, techniques, comme vous voulez. Loïc, oui ?
Oui, moi j'aurais une question par rapport à l'antériorité, en fait. J'ai pas trop compris pourquoi les sciences...
Parlez bien fort, parce qu'on vous entend relativement faiblement.
Là, vous m'entendez ?
Oui, j'ai monté le son, mais je pense que oui, c'est mieux. Je coupe mon micro. Hein.
Ok. Je disais, par rapport à à l'antériorité et les sciences cognitives, pourquoi les sciences cognitives... serait incomplète j'ai pas trop compris ça pour quel était le problème de l'antériorité en fait.
Alors je vais essayer d'aller être un peu plus clair, dans ce cas-là, pardon pour la confusion. Dans le schéma, en fait, représentationnel, on a cette supposition que le sujet et le monde sont dans un rapport de face à face, d'accord ? Donc que la conscience, finalement, serait le point de départ de l'acte de cognition, et puis que, bah, d'une manière passive, elle recevrait des impressions, puis d'une manière active, elle produirait des actes, en fait, dans le monde. Donc on est dans cette relation où on a deux termes qu'on suppose séparés, et on considère, on conçoit que la connaissance du monde par la conscience, c'est une relation, en fait, comment dire, c'est pas qu'elle est unilatérale, parce qu'on voit bien qu'en un sens elle reçoit et dans l'autre sens elle produit quelque chose en réaction, mais c'est une relation où la conscience est supposée être le point de départ, d'accord? Benjamin, effectivement, il n'y a pas de permanence, effectivement, c'est un mouvement, c'est plutôt le mouvement qui serait permanent dans ce cas-là, si on doit chercher une permanence. Et donc, pour revenir à la question de l'antériorité, la difficulté que pose ce schéma-là, c'est que la conscience elle-même, ce point de départ qu'on suppose, on sait bien qu'elle existe dans le monde, c'est-à-dire que le jour où toi et moi on a été conscient pour la première fois, c'était pas avant la constitution du monde. On a commencé à être conscient dans un monde qui nous précédait. C'est ça qu'on appelle antériorité, c'est cette dimension de préséance, en fait, du monde sur l'activité consciente. Et cette préséance-là, elle s'incarne, en fait, dans l'activité consciente. Être conscient, finalement, c'est forcément être conscient quelque part d'un monde en face de soi. Mais ce monde en face de soi, il est, il est affecté par... donc ce monde en face de soi, c'est le monde que j'ai dans ma conscience. Cette idée-là que je mets du monde, elle est affectée par la manière dont ma conscience a été déterminée par le passé, par le monde. Je sais pas si c'est beaucoup plus clair comme ça, mais donc voilà, c'est cette idée que si on ne décrit pas la conscience, on ne décrit pas comment la conscience manque une partie de ce qu'on vit, parce que c'est ce qu'on vit tous. On vit tous cette expérience. On vit cette expérience du monde aussi. Je ne sais pas, dis-moi Loïc si ça suffit pas.
Je pense avoir compris, en fait. C'est ça qu'il faut, supposer une intériorité pour pouvoir mieux concerner la conscience, en fait.
Que faut la supposer... conscience
se fait dans...
Dis-moi, ouais. Dis-moi.
Non, mais après je connais pas très bien le sujet, c'est pour ça que je galère un peu, mais
c'est bon, si je galère, t'inquiète pas.
Elle se fait forcément dans un antérieur, enfin on est elle est pas que dans le présent.
Si, mais ce présent là en fait il est en continuité avec son passé. Il y a une grosse question sur la temporalité et tout ça, on va pas rentrer là dedans mais ce présent là ce moment en fait. En gros, l'idée, moi, ce que je pense, c'est, par exemple, tu vas voir ta boulangère, tu es en train de discuter avec ta boulangère. Pendant le temps où tu discutes avec la boulangère pour commander du pain, tu penses pas à ce que tu fais, d'accord ? Tu vois des petits pains, tu vois des petits gâteaux à droite, tu as des mots, des conversations, une phrase. Tu as tout un jeu, en fait, d'actes cognitifs, et ce jeu-là, c'est le contenu de ta cognition, d'accord ? C'est le contenu de ta conscience. Mais en plus de tout ce jeu-là, tu as cette activité propre qui est d'avoir des choses qui te sont manifestes. Parce que t'es pas en train de dormir et parce que t'es pas en train de réfléchir. Si tu dormais, il y aurait rien de manifeste. Et si t'étais en train de réfléchir, tu serais pas dans le moment. D'accord? Donc, dans le moment, il y a tout un tas de contenu, puis il y a une espèce de qualité de l'expérience qui est ce qu'on appelle être conscient, quoi. Et bien, cette qualité-là, cette manière dont tu vis le moment, en fait, il vient pas de nulle part, en fait. C'est une autre, c'est comme ta mémoire, enfin, ça serait comme ta mémoire, comme d'autres facultés de l'esprit. Donc, comme c'est une faculté de ton cerveau, eh ben, elle est aussi déterminée par, par ce qui la précède, quoi. Ben, voilà, je ne vais pas en dire plus, je vois que l'heure tourne.
D'accord, ok. Ben, merci.
Ben, je t'en prie.
Voilà, merci beaucoup pour cet échange, hein. Je pense que c'est vraiment intéressant, et puis merci pour les, aussi les, la dimension très concrète des exemples que vous avez pris, Benjamin. Ça permet, je pense, de, voilà, de clarifier plus de choses en fait, parfois, que les simples concepts, hein. Ça, c'est, on le sait, en tout cas dans une approche phénoménologique, c'est vraiment important, et on a tendance à parfois à l'oublier. Effectivement, je pense, juste pour boucler, parce que je vois qu'il est déjà 33, mais peut-être pour compléter encore ou continuer l'échange, il me semble que cette notion d'antériorité, il faut là aussi la prendre en un sens dynamique. Il faut la prendre comme un processus. Et je pense que c'était intéressant que vous reformuliez le terme d'antériorité en parlant de préséance ou de dimension de, d'auto-précession. Moi j'ai utilisé un terme il y a quelque temps dans un ouvrage où j'ai parlé d'auto-antécédence, c'est-à-dire en fait pour insister sur le mouvement, pour insister sur le fait que c'est un processus, une dynamique et pas un état, donc c'est pas une condition de possibilité au sens kantien, c'est quelque chose qui ne cesse de se déployer. Et en fait on peut utiliser par exemple une autre image aussi. Quand on est, si on veut casser le face-à-face du sujet et du monde et dire qu'en fait on n'est pas dans quelque chose qui, comment dire, qui oppose deux dimensions l'une à l'autre, et que le monde est antérieur, alors quand on dit le monde est antérieur, en fait c'est presque un peu gênant, parce que c'est comme si on prenait une position métaphysique, on peut en tout cas le comprendre comme ça, position métaphysique de dire si le monde est antérieur au sujet, par opposition à un sujet qui serait posé comme premier dans une philosophie du sujet. Et en fait, c'est pas ça non plus qui est en jeu. C'est-à-dire, c'est pas antérieur en ce sens, c'est pas reprendre, donner au monde, en faire un postulat qui serait, qui le placerait dans une condition originaire supérieure au sujet, parce que là, ce serait à nouveau retomber dans la difficulté inverse. Et donc, l'idée, c'est plutôt de penser, comme vous disiez, une co-constitution, une co-construction. Alors, c'est un peu abstrait, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, les deux dimensions se montent l'une l'autre. Et moi, par exemple, ça me fait penser à l'image d'un... si vous êtes un peu bricoleur ou bricoleuse, et que vous, ça vous arrive de monter des meubles, hein, et bien, d'une certaine façon, pour être sûr de bien monter le meuble, moi, je vous parle aussi par expérience, même si ce n'est pas forcément beaucoup mon truc, mais je l'ai déjà fait, on conseille, dans les conseils, les consignes, on conseille de ne pas visser à 100% d'un côté tout de suite. Hein, c'est-à-dire de ne pas créer une condition d'un seul côté, mais de visser d'un côté, de visser de l'autre un tout petit peu, donc de garder une flexibilité, et puis à la fin, voilà, le vissage se fait côte-côte, et donc le meuble, il va être d'autant mieux monté qu'en fait, on aura vissé des deux côtés au fur et à mesure, et qu'on aura donc co-construit le processus, vous voyez, de montage. Et bien, d'une certaine manière, je dirais, c'est une image qui peut être assez intéressante à avoir en tête si on veut repenser autrement, avoir un autre paradigme pour penser autrement la relation du sujet et du monde. Et je pense que ce que fait Varela quand il parle de co-constitution, de co-générativité, de co-construction, c'est exactement en co-construction. Voilà, l'image du meuble est assez intéressante à avoir en tête. Hein. Et donc, effectivement, quand vous demandez Benjamin... au sens psychologique, il y a une perte du moi. C'est pas vrai. Enfin, ça dépend comment on a. Enfin, ça dépend ce qu'on entend par moi. Si on entend par moi une sorte de structure, un pôle, enfin une substance, enfin au sens de Descartes, ou un je, enfin posé comme chez Kant. D'une certaine façon, on est déjà trop loin. On est déjà dans une posture métaphysique trop forte. En réalité, la phénoménologie. Évidemment, pour Husserl, à certains moments, il va penser l'ego comme ça aussi, mais il le pense davantage comme un, comment dire, comme un point d'appui, comme un support d'expérience qui sert de possibilité d'unité, un peu, comment dire, d'unité de fait, d'unité opératoire au réseau des vécus. Donc il ne le pense pas en un sens très fort, en tout cas à partir d'un certain moment où bon, il y a des phases différentes dans sa pensée. Et donc du coup le moi en l'occurrence, il faut si on veut l'ajointer finalement à une perspective dynamique comme celle de Varela, il faut le penser en un sens relativement faible, Donc en un sens qui est plus proche par exemple de la conception de la conscience qu'on trouve chez Locke, chez John Locke, comme un ensemble de flux, un flux d'un ensemble de pensées, effectivement une sorte de discontinuité, ça ce serait peut-être presque trop fort aussi, mais en tout cas au moins un flux, au moins un ensemble de modifications. Et que l'unité soit pas pour autant perdue dès l'instant où cette unité, eh bien, elle est opératoire, c'est-à-dire qu'elle est mise en œuvre, elle est davantage mise en œuvre que posée au départ comme un a priori ou un postulat. Bon, c'est complexe parce qu'effectivement, même chez Husserl, sa position a varié. Et effectivement, chez Husserl, comme disait très bien Benjamin, il a dit plusieurs fois, il a insisté plusieurs fois. Utiliser le verbe piocher, que je trouvais très intéressant. Varela va piocher chez Husserl des choses qui l'intéressent. Donc, alors si on l'entend négativement, on va dire ouais, c'est un peu instrumental. Enfin, est-ce qu'il n'utilise pas Husserl à sa sauce, un peu comme il l'entend, sans véritablement être dans la rendre justice, disons, à la pensée de Husserl pour elle-même. Donc il y a toujours le risque un peu de faire des philosophes des ressources pour des projets scientifiques. Alors on a pu critiquer Varela de cette façon de faire. On peut aussi considérer qu'en réalité la conception de Husserl étant elle-même très hétérogène, enfin ayant subi beaucoup de modifications et d'autocritiques même de la part de Husserl au fur et à mesure des décennies de son évolution, on est tout à fait fondé à aller chercher chez Husserl une dimension qui nous semble beaucoup plus pertinente qu'une autre. Et d'ailleurs, Husserl lui-même a critiqué parfois certaines conceptions qu'il avait mises en œuvre comme n'étant pas pertinentes. Donc Varela pioche, effectivement. Il utilise Husserl à titre de ressource. Et donc, il en fait, on pourrait dire, un usage pragmatique. Mais ça peut être perçu négativement pour un philosophe qui cherche à vraiment faire un travail d'histoire de la philosophie et rendre compte de la cohérence interne de l'auteur en tant que tel. Ça va être considéré au contraire comme très intéressant pour un philosophe qui au contraire cherche à avoir un usage transversal et interdisciplinaire et à privilégier la pensée et la productivité de la pensée et pas forcément le respect inconditionnel des doctrines. Vous voyez, enfin, tout ça est une affaire de curseur. Qu'est-ce qu'on met en avant, qu'est-ce qu'on privilégie. Donc voilà, excusez-moi, j'ai un peu débordé sur le temps. On avait démarré un peu en retard. Je ne sais pas si vous avez encore des questions. Éventuellement, on peut en prendre encore une minute ou deux. Voilà, si ce n'est pas le cas, immédiatement en tout cas. Merci pour ces interactions. Merci beaucoup, Benjamin, pour votre prise de parole à deux reprises dans la séance. J'espère que ce n'était pas trop contraignant ni exigeant pour vous. En tout cas, je pense que c'était très utile pour tout le monde et ça permet de distribuer les voix. Et vous savez que quand on est simplement en audio, on n'est même pas en visio, on se fatigue assez vite à écouter quelqu'un sans rien voir et sans contact. Je pense que c'est utile, on essaiera de le refaire, d'avoir des petites prises de parole de certains et certaines d'entre vous au fur et à mesure en fonction des intérêts et des possibilités, donc n'hésitez pas. Et par exemple pour Benjamin, c'est juste pour vous, voilà, pour vous inciter aussi peut-être, sachez que pour Benjamin, voilà, son séminaire avec ce travail-là est validé. Donc j'ai évoqué des mini-mémoires et des explications de texte, mais si dans le cadre d'une séance de séminaire vous prenez la parole dans un type de voilà d'angle d'attaque qui vraiment nous permet d'avancer, vous pouvez valider votre séminaire de cette façon également par l'oral. Voilà, belle journée à vous aussi, à tous, merci Cinzia, et donc peut-être à tout à l'heure pour ceux et celles qui le souhaitent, s'ils veulent continuer en visio sur Eros, et sinon donc à mardi prochain pour la séance de méthodologie de la recherche pour ceux et celles qui sont présents, et pour notre deuxième séance de séminaire jeudi prochain de toute façon. Au revoir My League, au revoir Lauriane, Erinch, Umut, merci beaucoup, Annick, au revoir, au revoir Nicole, au revoir Loïc, EJ, au revoir aussi, Guline, que je ne connais pas, bienvenue, au revoir Benjamin, au revoir Abdou. Au revoir Sophie. Oui, au revoir Annick. Au revoir Gary. Voilà, je vous laisse vous déconnecter les uns les autres. Et je ferme une fois que tout le monde s'est déconnecté. Benjamin, oui, j'ai reçu. En fait, je vais tout vous rendre d'ici la fin de la semaine. J'ai bien reçu votre... J'ai pas répondu à tout le monde, mais j'ai bien reçu. Pas de souci. Voilà, j'attends. Je vois que Cynthia et Benjamin sont encore en train d'écrire. Ah oui, Cynthia, d'accord. Réfléchissez déjà par rapport aux cette dimension que j'ai évoquée, les possibilités que j'ai évoquées, puis on peut échanger par mail si vous voulez, hein, en vue d'un oral, d'une prise de parole dans le cadre d'une séance de séminaire et de validation en ce sens, d'accord? Il n'y a pas de souci. Oui, c'est l'identité culturelle, c'est ça, ça correspond à ça. Benjamin. Bonne journée. Voilà, je coupe hein, pour... Je crois que tout le monde est parti maintenant. Au revoir.